C'est plus parce que tu avais peut-être une offre incroyable sur ta maison. Et parce que le marché immobilier est complètement fou dans ce coin-là.
Voilà.
La partie la plus au sud des États-Unis, Key West.
À noter que Jean-Claude dit la seule endroit, mais quand on parle de Key West, c'est vraiment, vraiment le seul endroit.
Oui, ouais, c'est ça. On tient à le dire. Mais il parlait comme Michel Tremblay écrit.
Ah oui, c'est ça.
Fait que c'est record. Il parlait comme une belle-sœur.
Des fois, c'est juste des fois c'est juste un mot que Jean-Claude dit, puis nous autres, on est allumés.
Ah, on est parti.
Il puse la gueule. Tu sens la charrette. Il puse la gueule. Tu sens la charrette. Tu sens la charrette.
Ça, c'est Denis Boucher.
Oui, Denis Boucher.
Le docteur Denis Boucher. Exactement. Qui est dans le retour. Ça avait brassé.
C'est
là,
quand il parlait des cathos.
Les cathos plus de la gueule. Ça avait revolé ses médias sociaux et pas à peu près. Et à partir de ce temps-là, DH a dit, je ne sais pas s'il l'a ramené, je pense que oui.
Oui, il est là chaque vendredi.
Denis Boucher. Il dit, ça a tellement brassé que Denis Boucher reste dans le casting.
Ouais, le gars
est devenu chroniqueur régulier, là.
Est arrivé pour une chronique éphémère.
Oui.
Ça a tellement pogné qu'il est là chaque vendredi.
Il est sorti permanent.
Ouais. Les Gino, selon JC.
Même quand je joue pas, tu suis ça pareil.
Oui, à cause de mon chum. Mais j'aime ça écouter ça avec lui. J'adore ça. On capotait, là, ça s'est joué.
Écoutes-tu du vrai basket aussi?
On n'écoute pas les gars, les filles.
Ça va, t'as c'est plus beau. Le temps d'analyser le jeu.
J'ai pas embarqué. Ah, ouais, allez donc.
Non, mais c'est vrai. Ça dunk-tu?
Non, pas vraiment, non. Plus ça change, plus c'est vrai.
Y'a rien d'un sur le soleil. Ça t'as plus le temps d'analyser le jeu. Ça dunk-tu?
Pas vraiment, non. Les machos, les gamaros. Et là, écoute-tu ça s'est joué.
Écoutes-tu du vrai basket aussi? Ça dunk-tu?
Ah, ça a pas
c'est bon. Plus le temps d'analyser le jeu.
C'est drôle, ça. WNBA versus NBA, c'est pas pareil. Mais c'était amené de brillante façon par Jean-Claude. Ben oui, on aimerait ça peut-être aimer ça plus, la WNBA. Mais la NBA, c'est pas pareil, on le sait, ça dunk-tu, baveux. On adore ça. Puis on a fait un petit montage avec ça, c'était super le fun. C'est quoi ça?
C'est chaud.
Je veux que ça chauffe.
Ah
là,
oui!
Là, je mange avec mes baguettes.
Oui.
Là, je sue, là, tu sais. Là, j'ai chaud les tempes, là, ça coule sur le comptoir, puis ma blonde me trouve complètement débile. C'est bon, là! C'est chaud!
C'est bon, là!
C'est chaud, là!
Il va en avoir d'autres en 2026.
Puis quand j'enlève mes jeans, j'enlève tout. Puis mes jeans, je les lave pas à chaque fois.
Oh, ça, on le savait. Ah.
J'ai mis mes jeans. De vêtements dont j'ai besoin. Ça, tout ça.
C'est dégueulasse. Moi, je grandis, ils
grandissent pas. Non, non. Dans le bas de pantalon.
Ah, mais jamais il t'a... Il t'a importuné.
Mais non, tu sais.
Il l'a pas senti.
Mais non.
Ah, mais comment elle veut rester là?
J'ai mis mes jeans. Sale, tout ça.
C'est dégueulasse. Moi, je grandis, ils grandissent pas.
Non, non. Les tunes sont magiques aussi.
Moi, j'écoute ça. Je prends note le timing. Je t'envoie ça. Je te donne une suggestion de tune. Mettons, 7 fois sur 8, ça va marcher. Mais quand ça marche pas, c'est que tu n'es pas capable de rentrer dedans. Puis explique peut-être au monde comment il faut entrer un montage.
On essaie de ne pas mettre de paroles. En fait, je veux des punchs musicaux.
Parole sur parole, ça marche pas.
Je vais vous donner un exemple. Parole sur parole, ça marche pas. On a essayé de faire un montage de Jean-Claude qui imitait Yann Alperin sur la trame d'ouverture. De Yann Alperin avec
Guy. Qui est du chant.
C'est ça, qui est du chant, ça donnait ceci.
Yann Alperin fait dire que ça a l'air que Elon Musk va ramener les.
Ça marche pas.
C'est ça marche pas. C'est ça. Ça aurait pu être drôle parce que Jean-Claude imite Yann.
Exactement.
Mais ça aurait fallu trouver une tonne dance,
voilà.
Ou une tonne pour rentrer, pour dégager l'espace complètement, pour qu'on puisse entendre le gag de Jean-Claude.
Mais
ça, c'est rare ça, que ça arrive. Puis on fait attention à ça tout le temps. pour que
exactement
le montage soit impec et que ça passe en ondes.
Mais quand on parle d'Ibiza, par exemple, Mimosa Ibiza...
Ah, ça, c'est parfait!
Bon, on peut y aller avec la musique techno sans parole.
Oh! Ben, soit ça ou genre, voyons, la place ou Ibiza!
Oh! Oh! Oh!
Jean!
Mimosa Ibiza!
Jean!
Mimosa Ibiza!
Ça, c'est génial!
Jean!
Mimosa Ibiza!
Petit montage parfait, beaté, tu rentres dedans. La folie de Jean-Claude, patte en arrière, en appui, et Ibiza qui est... Parce que Jean-Claude a nommé Ibiza. Parce qu'il peut parler, je pense, des voyages.
Du voyage du maire.
Voyage du maire, puis voyage la gang de Destination Québec.
Voilà.
Et Mimosa qui est un clin d'œil à l'émission de La Blonde à Marchand. Fait que ça, c'est juste parfait.
On a 18, 20 ans, peut-être 17, peut-être même 16 si vous aviez vos fausses cartes. Puis on voulait frencher, là. Je veux dire, on se mentira pas. Là, dans le temps, on n'avait pas de cellulaire. On sortait pour frencher, là. Mm-hmm. Puis se faire payer à brosse. Puis puis se rappeler de qui on est vraiment durant la nuit.
Puis on voulait frencher, là. On sortait pour frencher. Là-bas, au bar, je spot une fille. Elle me regarde, me déshabille.
Puis on voulait frencher. Salut,
tu viens souvent ici?
Oui, mais je pense que je reviendrai.
Moi, j'avais un sentiment d'urgence.
On sortait pour
frencher. Moi, j'avais un sentiment d'urgence.
Et on voulait
frencher. Arrête de boire. À frencher, je pense.
Ouais, je pense qu'à frencher, je pense que ça marchait. À l'époque où elle sortait, c'était...
On disait ça pareil dans le temps. Elle a french.
Ouais, elle... Ouais, elle,
c'est, elle a french pas, l'autre a french.
L'as-tu frenché? Elle frenché
bien. L'as-tu frenché,
oui. L'as-tu frenché, oui.
Au secondaire.
C'est ça. C'était... Oui. Non, ça, c'était à l'époque qu'on écoutait Mr. Vain.
Vas-tu rentrer le cash?
Vas-tu rentrer le cash?
Hey, on trouvait une belle veine. Tu sais, des fois, tu prends des prises de sang, là, l'infirmière dit « Oh, on a une belle, là! » »«
Oh, on a une belle, là! »
Hey, tu sais, t'ont sorti à grosse aiguille, puis « Pac, clac! »«
Pac, clac! » »«
Va me pomper ça, man! Vas-y, man! »«
Vas-y, man!
» Vas-tu rentrer le cash? Hey, on trouvait une belle veine. Hey, on trouvait une belle veine.
Belle veine.
Vas-y,
belle
man.
Fait que c'est ça. Hey, y a un autre montage que j'aimerais ça te faire entendre parce qu'il a quand même été majeur. Ça a commencé avec un montage et ça finit avec deux chroniques par semaine pendant toute la période de l'automne. Ben oui, on écoute
on parle
ça.
De qui?
La capsule de sport de Ray de Sport.
Oui.
22 tapounes pour Kyle Crow, ça le place au deuxième rang dans la Ligue frontière à ce chapitre. Et 69 points...
On ne fera pas les nouvelles là, du mois d'août dans le...
Ça, on a fait un montage. Pourquoi?
On a fait un montage parce que...
À partir d'une vidéo de Ray.
Ray, quand Ray...
Sur Facebook.
Quand Ray s'est fait te dire, on ne sait pas comment, mais on va se passer de toi, par une autre station, il s'est mis à faire des vidéos sur Facebook pour ses sports. Puis nous autres, on s'est dit, tabarnouche, Ray, ce serait une belle acquisition.
On a le droit.
On a le droit.
Parce qu'on ne pouvait pas prendre de l'audio de quand il était à l'autre poste.
Exactement.
Donc, aussitôt qu'il était libéré, il faisait des vidéos. Là, c'est ça. Là, on a fait un ou deux, je pense. Puis à un moment donné, je suis allé manger avec Ray. C'est l'un des faits saillants de la dernière saison.
C'est
ça. Il est avec nous autres depuis ce temps-là.
Et le montage qu'on avait préparé pour ces vidéos est devenu son thème, le thème de Ray.
Oui. Absolument.
Pour,
Est-ce plus court, son thème?
Oui, le thème dure 15 secondes. Donc, c'est le thème qu'on écoute à chaque mardi, à chaque jeudi matin. C'est
Malatesta, qui est un des joueurs étoiles des Remparts durant la dernière Coupe Memorial. La dernière victoire des Remparts Coupe Memorial. Avec son call M-A-L.
Il
appelait le nom puis il faisait crier le monde des astrales. C'est complètement débile. Quelle belle période, pareil, à Québec. Wow!
Oui, effectivement. Donc voilà, ça ressemble pas mal à ça, à The Making Of pour cette année. On va se laisser, évidemment, avec la chanson maintenant du maire Marchand. À tout seigneur, tout honneur, Doom. C'est lui qui a gagné l'élection cette année.
On finit ça avec lui?
On finit ça avec la toune de la campagne du maire Marchand.
Joyeux Noël!
Ben, merci, toi aussi, Doom. Joyeux Noël. Joyeuse fête.
Je suis dans les toilettes d'un femme d'enfant. Et je suis perdu. J'entends mon papa.
Oui. Ben, j'imagine. Fais attention.
Joyeux Noël.
Fais attention au monsieur que tu connais pas, là.
Garde ton cœur d'enfant.
Gardez tous votre cœur d'enfant.
Oui.
fêter l'inclusivité et la diversité pour cette période des fêtes de...
Oh! Et Jean-Daniel, oui, également. Soyez inclusif et avortez jusqu'à la mort, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et on se souhaite une belle année 2026, mon cher.
Voilà, merci, Dom. Puis on se dit au 12 janvier, toute la gang réunie.
Oui, et moi, je reviens le 5 au matin à 6 heures avec Dom Dumas.
Et voici la chanson de campagne de Bruno Marchand. Joyeuse fête. Bonne année 2026, vous êtes pas prêt. Toi, es-tu prêt, Dom?
Salut, je suis pas prêt.
Voici en primeur la chanson officielle de campagne pour Bruno Marchand.
Il voit des glaciers dans son café et des ours polaires dans son thé. Un croisé de la gogo.
Des paroles saisissantes.
Méga dépensiers.
Droit au but!
Anti-voiture, pro-vélo, des pistes partout. Il fait beau, même en hiver, il roule, il ose. Un freak vert, mais quel...
Bruno Marchand, tel que vu à la télé!
Vous êtes sur la route, bonne nouvelle pour vous, tout le monde est en vacances puis le trafic a décidé de prendre un break aussi. Ça veut pas dire qu'il faut lâcher la prudence, personne veut une tragédie pendant le temps des fêtes. Ce qu'on veut, c'est fêter, avoir du fun, puis voir la famille, tout ça avec modération. Cette semaine, chez Adonis, économisez sur le rôti ou beefsteak de côte de bœuf à 11,99 la livre ou 26,43 le kilo. Détails sur adonis.ca.
Le retour de Radio X.
Radio X. Avec DH, Jordan et Mel Trudel. Lundi au vendredi, 15h.
Radio X. Présenté par Donnacona Ford. Tu veux t'offrir le cadeau parfait? Un F-150? Donnacona Ford. Tu veux un taux d'intérêt à 0%? Donnacona Ford. T'as un échange et tu veux le meilleur prix? On t'attend chez Donnacona Ford.
Solde d'après Noël, matelas Dauphin. Tous les matelas Dauphin sont réduits de 50% pour 6 jours seulement. Du 26 au 31 décembre, tous les matelas et sommiers fabriqués par Matelas Dauphin sont offerts à 50% de rabais, dont tous les matelas Dauphin.
Pour Noël, offrez des spectacles musicaux en cadeau avec les Week-end Rock à la salle Dina Bélanger. On y présentera des spectacles hommages de grande qualité à prix imbattable. CCR, Led Zeppelin, Supertramp et plusieurs autres. Billets en vente au lacapitaledurock.com.
Ça, c'est le son d'une Toyota Prius hybride branchable qui utilise le moteur à essence pour une escapade à l'extérieur de la ville. Et ça, c'est le son de la Prius qui utilise l'énergie de sa batterie pour un dîner à l'extérieur du bureau. Deux extrêmes, une Prius hybride branchable avec jusqu'à 962 km d'autonomie combinée. C'est l'heure de conduire la vôtre, c'est l'heure Toyota. Découvrez de nouveaux modèles emballants comme la Prius hybride branchable. Visitez htmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec aujourd'hui.
Le temps des fêtes approche et vous cherchez un moyen d'aider les gens dans le besoin? Certaines familles ou personnes vulnérables peinent à maintenir une condition de vie acceptable. Noël s'annonce plus difficile pour certains. En cette période d'amour et de partage, rendez-leur un peu dignité en donnant à la guignolée de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Rendez-vous à faire-la-différence.ca pour un don en ligne ou passez à l'épicerie près de chez vous pour remettre des denrées à nos bénévoles. Cette année, faites la différence.
Radio X recrute pour sa force de vente locale. T'es un développeur dans l'âme, un vrai fonceur. Que tu sois junior, intermédiaire ou même senior, on veut te rencontrer. Viens évoluer dans un milieu ultra stimulant pour la station toujours numéro 1 dans la grande région de Québec. Peu importe ton secteur d'emploi actuel, assurance, automobile, meubles, services, on veut te rencontrer. Fais-nous parvenir ton CV à cv@commercialradiox.com. cv@commercialradiox.com.
Choix.
Choix.
98.
98. 1.
Radio X. À Québec, c'est Radio X. Choix.
Radio X.
Faites-vous votre propre opinion.
Ô nuit de paix,
sainte nuit,
dans le ciel.
Dans le ciel?
L'astre lui.
L'astre lui.
Hey.
joyeux Noël.
On vous souhaite un joyeux Noël.
On vous souhaite un joyeux Noël.
Et une bonne année.
À vous et à tous ceux qu'on vous aime.
On vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année.
On vous souhaite un joyeux Noël.
On vous souhaite un joyeux Noël.
On vous souhaite un joyeux Noël.
Yeah!
Merci, Québec City!
Radio X.
Notez que l'émission d'aujourd'hui est une rediffusion. Veuillez ne pas tenir compte des numéros de téléphone, dates et concours dans le prochain segment.
On est privilégié de lui parler ce matin parce qu'elle est occupée. Vous la connaissez parce que dans d'autres circonstances, bien entendu, elle s'est exprimée et tout le Québec derrière elle. Je vous dirais qu'elle porte cette crédibilité-là de par ce qu'elle a vécu. Et le poids de sa parole, je pense, s'accompagne et ça va de soi. Ça fait mal, je pense, au ministre. De faire face à Isabelle Gaston et de se faire réprimander par Isabelle Gaston, il n'y a pas personne qui veut ça. Elle est en ligne. Bonjour, Dr Gaston, ce matin.
Bonjour, bonjour. Je ne l'ai pas réprimandée. Je pense qu'il y a derrière, je crois beaucoup à bonne foi, moi.
Oui.
Je pense qu'il y a quand même... Je dois admettre que même si j'ai pas voté pour lui, j'avais quand même beaucoup de... J'avais beaucoup d'attentes, là. Tu sais, ça... C'est quelqu'un qui m'amenait une certaine confiance quand je l'écoutais parler. Puis je me disais, tu sais, j'ai encore confiance, mais j'ai été un peu déçue du ton là, qui a été en commission parlementaire où on sait que c'est pas des... Comment je pourrais dire? On est là pour défendre un projet de loi, pour surtout ne pas l'oublier, défendre les gens, les Québécois, nos familles. On n'est pas à part. Et des fois, j'ai senti qu'il y avait un peu de condescendance, mais bon, c'est peut-être juste une impression. Puis je crois encore à la bonne foi. Je pense que si on travaille ensemble dans des bonnes conditions, on va y arriver parce qu'il faut que ça change. Et tu sais, c'est pas normal qu'il y ait autant de gens...
Qu'est-ce qui doit que changer? Vous reprochez quoi au ministre et qu'est-ce que vous voulez qu'il change?
Bon, reproche, c'est un grand mot, mais ce que je peux vous dire sur le terrain, c'est que si les médecins de famille qui ont des patients dans leur bureau n'ont pas en nombre suffisant des ressources interprofessionnelles, on va dire physio, ergo, travailleur social, psychoéducateur. Voyez-vous, même hier, là, on nous a envoyé une note. Là, c'est nous qu'il faut qu'ils nettoient les instruments. Vous savez, si je draine un abcès ou je fais des points, ben là, on a demandé de prendre les petites lingettes désinfectantes, de tout nettoyer, tu sais, comme nos instruments, là, l'étape 1, si on veut, de la stérilisation, puis ensuite de mettre ça dans un liquide là qui va... fait que probablement qu'on a coupé ça. Donc
c'est pas au médecin à faire ça? Mettons que je vais voir un médecin, lui, il nettoie la patente qui me met dans les oreilles pour me regarder les oreilles, entre autres.
Oui, non, ça, je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant que les étapes de la stérilisation, moi, j'ai pas de problème à le faire. Vous savez, ma mère a été serveuse de restaurant. Moi, je viens de Hochelaga-Maisonneuve, j'ai été menacée. Ce que je veux dire, c'est que j'ai aucun problème. Mais pendant que je prends 10 minutes pour nettoyer l'appareil au salaire que la société me paye, je pense que c'est plus efficace si je vais m'occuper de quelqu'un. Tu sais, comprenez-vous que j'endraine un autre abcès ou que je vois une petite fille qui a fait une crise de panique, puis que, tu sais, pour essayer d'évaluer si y a-tu de l'inceste, y a-tu de la violence à l'école, pourquoi elle a fait sa crise de panique, ça prend 10 secondes de notifier une crise de panique. Si j'ai pas...
Une infirmière, par exemple, si vous n'avez pas l'appui d'une infirmière ou d'une assistante ou d'un assistant.
Si, oui, mais prenez cet enfant-là. Là, si je prends pas l'heure et quart pour essayer de elle va être vue, mais elle va peut-être être vue dans 4-5 mois, alors que ça va s'encapsuler, puis elle aura pas... Fait que, je veux dire, des fois, la performance... on est médecin. Là, ce qui est plate, c'est qu'on voit les gens comme des chiffres. Puis je l'ai dit en autre entrevue, il y a toujours des docteurs là, qui nous font mal paraître, qui voient les patients en une minute, qui les écoutent pas, puis qui vont prendre l'argent, puis que, tu sais, comprenez-vous, ils vont peut-être faire beaucoup d'actes, avoir de l'air performant dans un tableau, mais au final, ils auront répondu à rien. Puis à un moment donné, il y a un nombre. Voyez-vous, nous autres, là, on a 19 % de docteurs en termes de médecins de famille. Pour 27 % de la population montréalaise, il y a deux lieux à Pointe-aux-Trembles où on pourrait, disons, essayer d'augmenter le nombre de médecins. Un qui est saturé, il n'y a plus de locaux. OK. Un autre où il y en a trois qui partent à la retraite, deux qui ont plus que 80 ans, deux qui sont retournés en Europe. Fait que, au final, là, dans le prochain arrêt, on va se ramasser à peu près 3-4 médecins, incluant moi, là, qui est à 4 jours semaine.
Oui.
plus 35 000 personnes qui n'ont pas de médecin de famille.
Médecine de brousse. C'est de la médecine de brousse.
C'est de dire que tout le monde va garder son médecin de famille. OK, peut-être. Mais si, comme bien des Québécois, leur médecin a trop de patients, puis quand ils appellent parce que là, il s'est cassé la cheville ou le poignet, puis qu'il n'est pas capable d'avoir le rendez-vous, ou que tu as un otite, puis que là, le rendez-vous va dans une semaine, bien, à un moment donné, c'est un peu comme dire j'ai pas de médecin de famille.
D'où l'utilité, selon le ministre, des codes de couleur. Autrement dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est bien illustré dans la presse ce matin, c'est-à-dire selon telle condition, vous pouvez aller voir un pharmacien. Ben, allez-y.
On va résumer ça. Vert, jaune, puis je pense que c'est l'autre. C'est comme les lumières de circulation. Mais vous voyez, moi, hier, j'ai vu quelqu'un là qui est considéré vert, OK, qui venait parce que, j'ai peut-être un TDAH, mon médicament va pas bien. Mais au fond, là, si tu questionnes, puis tu rends compte qu'il y a peut-être un problème d'alcool. Après ça, il y a peut-être un problème X, Y, Z. Finalement, j'ai trouvé, il y avait une pression à 171 sur 92, chose que j'ai jamais eue. Après ça, fait que là, finalement, ce qui était considéré comme vert, qui avait de l'air vraiment simple, il y avait trois sous-problèmes là-dedans. Fait qu'une heure et quart plus tard, ben, on a réglé, tu sais, ou entamé, tu sais, un traitement, si on veut, ou une prise en charge des trois problèmes. Donc, si je l'avais vu dans un endroit où j'y allouais seulement 15 minutes, j'aurais pu, en deux minutes, changer sa médication puis dire, ah, ta pression, OK, tu checkeras ça, tu reviendras. Mais, j'en ai profité de faire de l'enseignement. Au final, ça va coûter bien moins cher à la société parce que ce gars-là, au lieu de consulter 3-4 personnes, puis au lieu de ne pas se prendre en charge tout de suite, ben il pourrait développer des conséquences. Vous comprenez? Des fois, là, fait que c'est ça. Moi, je trouve que il faut s'inspirer, il faut changer. On n'aura pas le choix.
On s'inspire de qui et de quoi?
Il y a plein de choses. Je ne suis pas une experte, mais si on prend le groupe d'experts qui ont des doctorats là, en gestion de la santé, fait que, disons, si on prend juste un exemple, nos voisins, l'Ontario, eux, ils ont décidé de se faire un plan, mettons, sur 5 ans. Fait que déjà là, ils se laissent du temps. Ils ont 2 millions de patients, de personnes qui n'ont pas de médecin de famille, puis ils se disent, OK, pourquoi on va faire des équipes interprofessionnelles, des équipes, pas un qui travaille au quatrième étage, un autre au deuxième, puis personne ne se parle. On fait des équipes, on planifie, puis on va envoyer les effectifs médicaux là où il y a des besoins. Donc, pas où les gens votent, pas de la couleur. Il y a 36 000 personnes ici qui n'en ont pas de médecin de famille comme nous. Là. 35 % des gens n'ont pas de médecin de famille dans Pointe-aux-Trembles.
Et ça, le ministère le sait, les zones désertées, quasiment des zones sinistrées au Québec, les CIUSSS les connaissent. Donc, des équipes interdisciplinaires. Là-dedans, je peux imaginer les physios. Je trouve que les physios sont au privé de leur bord, sont jamais intégrés. Puis là, il y a une population vieillissante, par exemple, Mme Gaston, les physios, je verrais très bien ça dans une clinique.
Mais oui, les physios, il y en a un qui était, je ne sais pas encore son rôle, là, mais qui disait, il y a plein de physios qui seraient prêts à intégrer, tu sais. Puis nous, là, on demande, nous autres, à notre CLSC, on a intégré une MPS, il y en a une deuxième qui s'en vient, possiblement une troisième, on les a intégrés, là, sur le même niveau que nous.
Ce qu'on appelle les super infirmières, là.
Exact. Ils ne sont pas nos subalternes, OK? On les considère comme un médecin, comme un collègue, puis on les invite à nos réunions, puis on participe ensemble, puis on fait de l'échange, de la formation continue ensemble. T'as une question, viens me voir, pas de problème, je remplace les patients.
Vous travaillez pour le patient, vous n'êtes pas en compétition.
Exactement. C'est ça. OK? Puis, moi, je suis une ancienne infirmière, là, donc ça me plaît énormément. Mais politiquement, là, quelqu'un va vous dire, parce que moi, je l'ai vécu à l'urgence, là, quand je me suis plaint, à un moment donné, il n'y a pas d'infirmière dans le corridor, j'arrive en colère. Oui, il y a des infirmières dans le corridor. Là, je ressors du bureau du gestionnaire, là, je dis, hostie, c'est, dans le fin fond, ce que j'aurais dû dire, c'est qu'il n'y a pas d'infirmières en nombre suffisant pour les patients. Fait que là, je retourne puis je me dis, là, ça n'a pas de bon sens. Le ratio, à un moment donné, les guides de bons soins de pratique, OK? Si on dit une personne est aux soins intensifs, faut que je vérifie ça en post-opératoire, à un moment donné, il y a du temps. Si les infirmières qui sont au bloc opératoire ou celles qui sont au pansement, il faut qu'on respecte les techniques de stérilité, comment on ouvre les paquets, comment on stérilise. Mais si, là, tu m'en mets ce qui est incompatible avec ce que la science dit, bien, c'est sûr que tôt ou tard, la stérilité va prendre le bord.
Êtes-vous inquiète?
Oui.
Êtes-vous inquiète?
Oui, puis savez-vous quoi?
Inquiète de quoi?
Quand tu as perdu tout, là, OK, puis que, honnêtement, là, je suis pas dans l'émotion, même si souvent je le suis, là, je suis intense, mais ce que je veux dire, c'est quand tu as tout perdu, à un moment donné, tu deviens que tu fixes sur qu'est-ce que comment je pourrais dire, tes valeurs, là, t'es obligé de considérer l'humain comme étant prioritaire. Fait que oui, je t'inquiète parce que la qualité.
C'est ça, vous faites une. Ben, l'un des impacts du syndrome post-traumatique que vous avez vécu, c'est de l'hypervigilance. Ben, j'ai l'impression que votre hypervigilance, elle est au niveau du système, que vous voulez que ça fonctionne bien, puis vous êtes toujours en train de tenter de trouver des solutions. J'ai l'impression que vous êtes rendu à ce niveau-là.
Ben,
est-ce que j'ai bien compris?
Ben, quand tu as vécu une injustice, t'as beaucoup de. Tu veux pas. Puis l'être humain qui est devant moi, là, honnêtement, quand il souffre, tu sais, les gens, ils disent souvent on a entendu, on dit ils ont pris Isabelle Gaston, tu sais. Ben oui, elle, tu sais, tu comprends, elle. Mais attends une minute, là. Je veux dire, il y a des gens qui souffrent autant que moi, sinon plus, en ce moment. Puis on n'est pas en train de comparer ta souffrance avec ma souffrance. Puis toi, c'est valable. Tu sais, tu comprends, à un moment donné, l'être humain qui est devant moi, qui souffre pour un appendicite qui est en train de rompre, ou parce que, tu comprends-tu, il a perdu sa job, ou ben, il est en train de souffrir. Il faut qu'il y ait un. Fait que moi, je suis un médecin, je suis pas un gestionnaire. Je le sais que je peux pas faire abstraction. Des fois, je me le dis à mes patients. Savez-vous quoi? Il faut qu'on on perde pas de temps parce qu'il y a 1,5 million de gens qui n'ont pas de médecin. Puis je trouve ça injuste que mes patients aient des... Je considère des super bons soins alors qu'il y en a qui n'ont même pas accès à un médecin de famille.
Je comprends.
Donc, ça va être à la population aussi de s'adapter.
Que pensez-vous de Santé Québec?
Ben écoutez, ça doit partir d'une bonne intention, mais je pense qu'à un moment donné, ça suffit d'avoir du monde en haut de la pyramide, mettre du monde en bas, puis tu sais ces argents-là, tu sais, ils sont là.
Est-ce que ça a été une bonne idée?
On le verra dans le temps, mais les salaires, je veux dire,
qu'est-ce que vous pensez des salaires qui sont donnés à ces gens-là?
Si quelqu'un était là de bonne foi pour vraiment améliorer, quand tu es déjà rendu multimillionnaire ou tout ça, tu sais, si vraiment tu te dis je le fais par l'intention que je veux tout changer, t'as-tu besoin d'un salaire de 540 000, tu sais, je veux dire, à un moment donné.
Donc, c'est exagéré, l'histoire du Top Gun?
Ben oui, tu sais, mais tu sais, après ça, tu sais, combien ça vaut, tu sais, c'est. Vous savez quoi? Des fois, moi, je regarde mes amis qui sont plombiers, électriciens, ils n'ont pas commencé à un gros salaire, mais ils en ont rushé. Mais aujourd'hui, là, la personne qui gagne le moins bien, puis souvent, je fais cette joke-là, je disais, avoir su, là, j'aurais dû donc étudier moins. Parce que j'aurais pas...
Parce que vous dites ce matin que vous gagnez moins que 150 000 à travailler 4 jours/semaine de CLSC.
Oui, puis quand... parce que souvent, les gens, ils vont faire le 37,5 heures, puis vont dire, ben là, hey, c'est normal, c'est un bon salaire. Non. Souvent, là, si je calcule tout, là, ben, je fais
de la paperasse, remplir les dossiers, c'est ça.
Exactement.
C'est NESST, blablabla, là.
Oui, ben tu sais, ça, c'est même pas dans le. Ça, moi, je considère que je reçois un montant pour ça, là. C'est même pas là-dedans que je vous dis, là. Je vous dis, quand il y a quelqu'un qui a un cas difficile, il y a des gens qui vont consulter 2-3 médecins, puis là, on trouve pas. Ben, à un moment donné, il faut que quelqu'un s'arrête, là, puis qu'il prenne 2-3 heures pour réviser.
Bon, ben, est-ce que vous, parfois, vous vous arrêtez pour vous dire, j'ai le goût de sacrer mon camp, d'aller dans d'autres endroits où là, vous êtes bilingue, donc vous allez plus apprécier, avoir une meilleure qualité de pratique. Est-ce que vous posez cette question-là, Mme Gaston?
Oui, puis je veux dire, des fois, là, je trouve que ça peut être mal reçu comme le petit bébé gâté. Moi, je suis québécoise, je suis francophone, ma famille est ici. Je trouve que quand tu as été pauvre, il y a peut-être un avantage, c'est que tu te dis j'ai un devoir envers la société. Mais après, oui, j'étais allée en Nouvelle-Zélande, j'étais allée en Australie, j'ai reçu un emploi dans un petit avion qui me disait je t'engage demain matin. J'étais allée voir il y a
c'était
des emplois
place?
En Australie, dans le Queensland. Là,
avez-vous regretté d'avoir dit non?
Ben je pourrais toujours dire oui, là. Il y a des pays.
Allez-vous dire oui? Après notre jasette, avez-vous le goût?
Non, j'ai pas le goût. Puis vous savez, moi, j'ai un chum là, qui est multimillionnaire, qui m'a dit, tu sais, là, moi, je t'aime tellement, là, t'en as assez à endurer. Pourquoi t'endures tout ça? Pourquoi? Ben, savez-vous quoi? Pour la même raison qu'il y a des fois, il y a des gens, quand on est enfant, ils tendent la main vers nous, puis personne ne croit en nous. Mais moi, mes patients, j'ai étudié en médecine, puis j'ai.
Je comprends, mais vous avez le droit d'être heureuse une fois pour toutes dans une pratique, quand vous n'êtes pas en étant respectée. Je comprends, mais en étant respecté, vous vous sentez pas respecté?
Bien, c'est par le gouvernement.
Par le gouvernement. Je veux faire entendre d'ailleurs le ministre qui, je trouve, a manqué de respect. On va jouer la clip d'Anne que Dom nous a isolés en mauve. Je trouve que le ministre a pris. Il y a une attitude très désinvolte et condescendante, à mon avis, mais cette fois-là, ça a été à l'endroit d'un autre médecin, cette fois-là. en hématologie, donc en cancer, qui avait une clochette hier. Je vais faire entendre l'extrait.
Docteur Gabriel Gagne.
Oui, on va écouter ensemble.
Bien là, ça fait plusieurs mois que le système de cloche ne fonctionne pas. Donc, on a fait des démarches à plusieurs reprises et on nous a dit qu'on allait régler ça en 2026-2027. On était sur la liste de priorités. J'ai 20 chaises de traitement, deux dans des salles qui ne sont pas visibles du poste. Alors, on nous a proposé un système qui date des années 1800 et qu'on remet aux patients.
Une cloche.
OK. C'est vrai, là, je l'ai ramené de la
Est-ce
salle de traitement. J'ai
Est-ce
vu ça la semaine
dernière.
Mais je vous donne.
OK, elle fonctionne au moins.
Ouais.
Madame.
Alors, je vous donne. Faites-la sonner assez fort pendant que vous perdez connaissance plusieurs fois pour que je sache où est-ce que vous êtes okay. et que je l'entende à 20
pieds. Vous avez été très bonne personne en communication. J'en reconnais quelques-unes dans la salle.
Qu'est-ce que vous pensez de ce comportement-là?
Ben, c'est inexcusable, là. Je les ai tous regardés, là, les entrevues, comme quand il a répondu aussi à un avocat parce qu'il était pas médecin, là. Il dit pas à vous que je veux parler. C'est ça qui m'a déçu, puis je m'attendais vraiment pas. Honnêtement, ça fait 10 ans que j'ai plus de télévision, là. Donc, c'est sûr que ça aide au bonheur, là. Puis, vous savez, c'est pas parce que je suis intense et je parle vite puis fort que je suis pas heureuse, là, malgré tout. Mais, mais c'est, tu sais, nous, on a un système de téléphonie, là. Juste vous dire, quand la secrétaire tombe malade et on veut faire un transfert de téléphone, OK? Ben, ils nous disent que le système, il est des années 70. C'est impossible. Ça coûterait 100 000 de faire un transfert de téléphone, là. Je dis, ben, voyons, on va appeler Vidéotron, Bell, j'ai pas de préférence, là. Puis, nous demander l'heure juste de faire un transfert de téléphone, là. Je dis, c'est pas compliqué. Ben non, c'est impossible, là, je veux dire. Donc, je pourrais continuer, là, honnêtement. Là, moi, là, j'avais un appareil à pression qui avait un trou dans le brassard. J'ai dit, c'est en CLSC, normalement, vous devez. J'ai acheté à 1000 $ un appareil automatisé pour prendre, selon les normes, la pression, c'est-à-dire trois fois dans un environnement calme, que le patient, il ne parle pas, il est bien appuyé. Mais je veux dire, je mets pas ça sur... Mais je pourrais continuer, là, continuer.
Bien, continuez donc, justement.
Bien, vous voulez d'autres exemples?
Oui.
Bon, OK. Disons, je fais des plaies, moi. Donc, à chaque fois, il faut que je me rende en avant pour chercher... c'est quand même grand, là, le CLSC, là. Fait que je faut que je me rende en avant pour chercher mon matériel parce qu'il n'y a pas de salle. Maintenant, ils ont enlevé la salle pour faire les techniques chirurgicales. Fait que moi, je suis allée chez Walmart, j'ai acheté un chariot, je me suis monté un chariot pour pouvoir faire mes techniques chirurgicales. La même chose avec les plâtres. Ils ont enlevé la radiologie, là. Donc, ben, ils auront juste à aller...
La radiologie.
Ouais, on a un beau, c'est quand même vieux, mais quand même, ça faisait la job pour voir si c'est une fracture ou pas. Puis là, on n'a plus de radiologie. Ils ont dit, ben, tu sais, la technicienne en radiologie, elle va nous servir plus, là, à Maisonneuve Rosemont. Ouais, je comprends, mais nous, on a une population, là, qui se blesse, là. Puis je veux dire, partir de Pointe-aux-Trembles, vous savez peut-être pas commencer, là, mais se rendre à Maisonneuve Rosemont. Si t'as pas de voiture, là, ça peut te prendre facilement une heure. Tu sais, Montréal est à 2 heures de Montréal. Donc, ce qui va arriver, c'est que on va plus en faire de plâtre parce que, je veux dire, le patient, on va en faire, mais des fois, je vais dire, tu sais, maintenant, je peux y envoyer par Internet là, sa requête. Il va faire la radio à telle place. Je vais essayer d'avoir le rapport. Donc, je ne vois pas la fracture. Je me fie sur un rapport. Puis là, après, ben, si j'ai chanceux, je vais l'avoir en 24 heures.
Avez-vous des écureuils au moins?
On n'a peut-être pas d'écureuil, mais il y a une boîte à rats. Attendez, il y a une boîte à souris rats ben, dans l'entrée. Je pourrais vous envoyer une photo. Puis là, je me dis tout le temps, oh my God. Après ça, la ventilation... là.
Vous pognez au moins?
Ben, je ne sais pas, j'ose pas regarder ce qu'il y a là-dedans, là, mais je me dis, ça fait une couple de mois qu'elle est là.
Mais là, vous êtes dans le multitasking, là, Isabelle Gaston, franchement, vous n'avez pas regardé. C'était non, épouvantable. Continuez, docteur, continuez.
Ben, tu sais, j'ose pas, là.
Ben ouais.
Donc, je vais vous donner un exemple. Allez. Au sous-sol, là, on peut vacciner, OK, on peut vacciner les gens, puis on peut faire des tests de dépistage pour la COVID ou l'influenza, puis etc. Donc, j'ai un monsieur qui a 89 ans, qui a un syndrome, tu sais, comme il est malade, là, il tousse, il crache, il fait de la fièvre, mais là, je veux pas lui donner des antibiotiques pour rien, parce que, tu sais, je me dis, ben, il peut faire le C difficile, il va compliquer, puis il a déjà une insuffisance rénale, il est cardiaque, en tout cas, il est multipoqué. Fait que là, je me dis, ben, crème, il va faire le test de comprenez-vous, d'influenza. Oui. Moi, dans mon bureau, l'infirmière n'est pas disponible, fait que j'y fais moi-même le stress, puis après ça, je l'envoie. Mais là, c'est impossible d'avoir, ben, sauf si tu descends en bas, donc moi, qu'est-ce que vous pensez que je fais? Je descends en bas, je prends l'ascenseur, là, je leur dis, écoutez, j'ai un patient, il faut que ça soit fait. Ah, mais il faut qu'il prenne rendez-vous sur clic. Je dis, non, mais c'est parce que vous comprenez pas la médication, le Paxlovid, il faut que je commence rapidement. Il me dit, oui, mais là, tu sais, oui, il rentre toutes dans les choses. Mais là, il faut remplir le formulaire. Ben là, je dis, OK, quel formulaire? formulaire, ben ce formulaire là, remplis le formulaire. Là je dis ben là mon patient il est là, il a de la misère à marcher, fait que là faut que j'aille chercher une chaise roulante, pas de chaise roulante, je redescends, va m'en au troisième, demande une chaise roulante, je redescends, je reprends mon patient, roule mon patient parce que j'ai personne pour l'amener, j'ai fait faire son test. Ben savez-vous quoi, il avait la COVID, j'ai pu partir le traitement. Que j'ai appelé le pharmacien parce que j'ai checké le soir même le résultat quand j'étais chez nous. Fait que c'est sûr que ce patient-là, il ne m'a pas pris 15 minutes, mais il est en vie aujourd'hui, il va super bien puis il m'a remercié. Fait que ce que je veux dire, c'est que des fois, derrière les chiffres, s'il y a un cœur, je m'en fous comment je gagne parce que quand j'ai été malade, mes économies font en sorte que je peux peut-être me payer un psychologue.
Mais auriez-vous le goût parfois d'aller carrément au privé? Clinique médicale La Croix, par exemple, je vous en parle, puis il y a plein d'autres cliniques à Montréal.
Okay. Hein? Moi, je vais vous dire ça rapidement. Allez. Quand j'ai commencé la médecine, là, j'étais tellement contente. Vous pouvez même pas vous imaginer, là, je m'en souviens encore, okay, que quand j'ai reçu mon acceptation en médecine, je me souviens très bien que je m'étais dit, hey, moi, là, je te paye au minimum, je le préparais. Bon, je suis peut-être l'exception.
Passionnée.
Mais passionnée, OK, j'adore ça. Mais là, moi, ça serait vendre mon âme d'aller au privé. J'ai rien contre les collègues qui y vont, puis etc. Okay. Là, depuis quelques temps, fait que moi, je suis une des endurcies qui est pour le système public. Là.
Oui, mais ils ne sont pas contre le public, là, les gens qui sont au privé.
Exactement. Non, c'est pas une bonne job. Ce que je veux vous dire, c'est que là, je l'ai envisagé. Depuis le 1er avril, on ne peut plus y aller au privé. Moi, c'était souvent ma soupape. Là. Je disais, hey, là, si le gouvernement m'écœure, je vais y aller au privé.
Mais qu'est-ce que vous pensez du Collège des médecins qui veut vous empêcher d'y aller?
Ben c'est que en ce moment le bateau coule, puis il coule en très très bien. Fait que d'un côté, le collège est là pour sauver puis protéger le public, donc ils ont tout à fait en guillemets raison. OK, c'est sûr que il y a toujours des exceptions.
Mais le public veut être soigné, donc le public va au privé de plus en plus.
À un moment donné, ceux qui restent, c'est parce qu'on a à cœur de continuer. Là. C'est pas juste de prendre l'argent. Moi, c'est ça que je trouve, c'est que là, présentement, on dévie des fois le sujet, puis on parle d'argent. Oui, OK, bien ça, là, la FMOQ, elle s'en occupera. Mais on peut pas faire de fraction, c'est tout dans le même panier. Là. Mais je vais vous dire, là, la plupart d'entre nous, là, on est à bout, puis si on a resté, c'est parce qu'on veut prendre soin de
nos patients. M'avez dit précédemment que vous aviez le goût d'aller au privé.
Ben OK, puis parce que je l'ai fait le calcul. Je me suis dit, OK, mettons, là, je vais mettre au minimum. Là, je verrais juste 4 patients, mais des cas difficiles. OK, moi, j'adore les soins à domicile. Je trouve que nos personnes âgées méritent. Ils sont plus capables de marcher, ils sont plus capables.
C'est la voie de l'avenir.
Ben moi, je fais des soins à domicile, OK? Fait que si tu es capable de marcher, d'aller chez le coiffeur, je te rapatrie au CLSC. Si t'es pas capable parce que tu t'es fait opérer, je vais aller te voir, puis je t'abandonnerai pas. Bon, mais ça prend du temps, hein? Le gouvernement, il paye plus pour. Moi, je m'en fous, là, mais tu sais, il paye plus pour mon gaz. Ils ne payent plus pour rien, puis il y a des patients qui sont à 40 minutes. Là. Fait que là, il faut que j'y aille. Pas parce qu'ils sont loin. Okay? En termes d'écrivement, probablement.
Mais le privé, ça vous tend dessus?
Bon, bien, j'ai calculé ça. Là. Si, mettons, je chargeais 200$ par patient, puis j'envoyais juste 4. Okay? Mais là, je prends une heure, je m'occupe tout de toi, je fais tout. Là. Fait que je trouve ça quand même cher. Mais, tu sais, je m'en viens chez vous, je prends mon char, je ne te charge pas plus. Là. Taxine, là. Je veux dire, en 42 semaines, avoir seulement 4 patients, 4 jours par semaine, je gagne plus que ce que je fais en CLSC en ce moment.
Est-ce que ça vous intéresse?
Les gens qui vont au privé, là.
Est-ce que ça vous intéresse? Pour vous, pour votre qualité de vie, mais également continuer de voir des patients?
Ça m'a intéressé plus philosophiquement pour arrêter de me chicaner et de juste me laisser soigner.
Oui.
Moi, là, je suis tannée d'être dans une chicane. Je veux juste soigner. Oui, je veux soigner mes patients bien. Je veux pas jouer au Scrabble avec eux autres. Là. Je veux pas qu'on commence à se compter nos voyages. Des fois, je l'avoue, qu'il y a 2-3 minutes là, que je me remets en question. Mais donc, Isa, là, tu as posé une question sur sa soeur, là, mais tu n'aurais peut-être pas dû. Mais si je pouvais seulement soigner, donner les soins, les bons soins aux personnes, moi, c'est ça qui m'attriste.
Vous êtes une idéaliste. Vous voulez tellement que ça marche.
Mais les plus vulnérables de notre société, là, moi, j'ai été d'un pauvre, entre guillemets, là, pas humain. Des gens que ma mère est revenue, pas riche. Là. Puis, je veux dire, des fois, les gens te traitent de haut. Hein, puis encore aujourd'hui, moi, j'ai pas les grands mots, j'ai pas le grand vocabulaire, puis je parle pas. Je pense que tout le monde ensemble, on est une société, puis le travail de un aide le travail de l'autre. Donc, j'essaie de traiter en égo, mais les gens que j'ai devant moi. Puis il y a des gens qui n'en ont pas d'options. Moi, j'en ai des options. Mais il y a des gens là qui n'en ont pas d'options. Fait quand il y a un diabète là, avec une glycémie à 20...
Vous avez un grand cœur.
Ça fait un grand cœur. Tu t'en occupes.
Ça va grand. Madame Gaston, on va être obligé de se laisser.
Ben oui, je le sais.
Sinon,
je sais,
c'est mon collègue qui va être obligé d'aller chez le médecin. Ouais. Parce qu'il est en train de faire du cœur, parce qu'on a défoncé. Mais ça a été un grand plaisir de vous parler, puis ça sera un plaisir de se reparler assurément. Ben là, parfait. En attendant, aviser quelqu'un du personnel d'aller voir la trappe à roche, je pense que ça bouge.
Ben, j'espère qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe, c'est vrai,
c'est
une couple de mois
qui est
là, ils ont peut-être coupé le poste.
Ah, c'est épouvantable. Hey, merci encore, docteur.
Ça fait plaisir. Bonne journée, au revoir.
Très sympathique. Isabelle Gaston.
La trame sonore de ta fin de semaine, c'est Légende du Rock.
On Radio X.
Avec Pee-wee. C'est Légende du Rock.
Samedi et dimanche, 9h.
Radio X.
Présenté par Multiconfort FP. Les rabais fou se poursuivent. Des rabais exceptionnels sur nos thermopompes se poursuivent en décembre. Informez-vous, Multiconfort FP, le confort à prix fou tout le mois de décembre.
Chez Sport Expert et Atmosphère, magasinez les soldes d'après Noël les 26 et 27 décembre. Pour deux jours seulement, profitez de 20 à 50 % de rabais sur plus de 400 marques. Détails en magasin. Sport Expert d'ici.
En pleine folie du magasinage des fêtes, faites une pause bien méritée. Laissez PFK s'occuper de vos repas. PFK, c'est des produits 100% canadiens préparés sur place et frais en tout temps. De quoi régaler toute la famille. Passez-nous voir chez PFK à Sainte-Marie, Montmagny, Donnacona, Vanier-Amel, Saint-Nicolas, Galerie-la-Capitale, Beauport voisin de la SAQ et au 840 Bouvier. Cet hiver, pensez PFK, le meilleur poulet frit au monde.
Hey! Salut! C'est encore moi, ton sommeil. Bon, là, c'est le temps des fêtes. L'équipe festive de Dormez-vous m'a demandé de vous rappeler que c'est aussi le temps de dormir. Hein? Oui, il y a des portions de dinde à digérer, il y a des pyjamas drôles à essayer, il y a des siestes à faire dans la pile de manteaux sur le lit. Le cadeau à donner, c'est moi, le sommeil. Attends de me voir emballé. Hein?
Vous aussi serez emballé quand vous allez profiter de 30 % de rabais sur presque tout pendant le solde des fêtes. En ce moment, seulement chez Dormez-vous. Les conditions s'appliquent.
Vendredi et samedi, obtenez 20 fois les points chez Pharmaprix. Ouvrez l'appli PC Optimum, magasinez, scannez et obtenez 30 % de remise en points. Conditions dans l'appli.
Notez que l'émission d'aujourd'hui est une rediffusion. Veuillez ne pas tenir compte des numéros de téléphone, dates et concours dans le prochain segment.
Couture dans le mid.
Avec Pierre Couture et Nick Cloutier.
Fait que, c'est ça.
Radio X.
Ouais, avant d'aller à notre invité,
oui.
Nick, la circule
Henri IV, ouais. Direction nord, là, dans le coin de Val-Bélair, sur la route de la bravoure, là, comme on dit, entre Montaulieu et Industriel. La route est toujours fermée. Il y a eu un gros accident là, un peu plus tôt. Et tous les services d'urgence étaient sur place. Ça semblait assez majeur, donc toujours fermé dans ce coin-là.
Voilà. Notre invité, il est là. Il est le vérificateur général du Québec, Alain Fortin. Comment allez-vous?
Bonjour, ça va très bien, vous?
Oui, ça va bien, je suis content de vous parler. Vous avez sorti hier un rapport annuel du vérificateur général qui le fait chaque année sur plein d'enjeux qui concernent l'administration de nos argent, de nos taxes et nos impôts à Québec notamment, gouvernement du Québec. Et vous avez parlé aussi du budget ou en fait de la mise à jour économique qui a été présentée récemment par le ministre des Finances, Éric Girard. Et c'est quand même assez critique, là. Notamment sur le retour à l'équilibre budgétaire qui, on n'a pas trop d'indications comment on va le faire.
Effectivement, on a parlé justement du plan de retour à l'équilibre budgétaire qui a été déposé en mars 2025, là. Puis pour avoir un retour à l'équilibre budgétaire en 29-30, il faut faire des efforts de 14,5 milliards. Et là-dessus, il y a 8,5 pour lesquels on a identifié le montant des efforts, mais pas les mesures. C'est pour ça qu'on dit que c'est incomplet.
Mais c'est incomplet, pas à peu près. Donc, les Québécois, on est un peu dans le brouillard. Hein? C'est ce que vous dénoncez, là.
Ben, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il était complet. Il aurait dû identifier des mesures, que ce soit là... je vous donne un exemple. Il y a un élément, un quart à résorber de 2,5 milliards. Alors, il faudrait être plus précis. C'est quoi la mesure, justement, un quart à résorber? C'est quoi qu'on doit... Les mesures qui vont être d'avoir faites pour ramener, justement, là, si on veut espérer arriver à un équilibre budgétaire?
Oui. Donc, on peut présumer qu'avec les données qu'on a devant nous, l'équilibre budgétaire de 2029-2030 pourrait être reporté. Là. Si on n'est pas capable d'identifier les cibles, ben, le parti politique, on a des élections l'an prochain, le parti politique qui va prendre le pouvoir, ben, va peut-être dire, ben, écoutez, là, nous, il y a un trou incroyable à aller combler là.
Effectivement, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un risque de ne pas atteindre justement le retour de l'équilibre budgétaire ou encore de ne pas pouvoir maintenir le niveau actuel des services.
Oui, exactement.
Il y a un risque pour nous quand on n'a pas identifié les mesures. Puis en plus, on a certaines mesures qui ont été identifiées, mais pour lesquelles c'est pas assez précis. Mais il y en a que c'est précis, mais qui a été abandonné. Prenons un exemple, il y en avait pour 681 millions. C'était les gains en capital. Mais ça, ça a été justement aboli deux jours avant qu'on dépose. Au moment où on avait produit notre rapport, on était encore à une situation de risque.
Oui.
Mais ça a été concrétisé là, deux jours. Le gouvernement n'ira pas de l'avant avec une imposition plus importante. Là, c'est un peu plus compliqué que ça, mais au final, ça imposait davantage les gains capitaux. Alors là, il va falloir trouver pour 2029-2030 une nouvelle mesure, parce que celle-là, elle était dans les mesures identifiées, mais elle ne se concrétisera pas parce que le gouvernement a décidé de ne pas y aller de l'avant avec celle-ci.
Voilà, puis il n'y a pas 56 000 façons là, d'aller chercher des nouveaux revenus. Hein? C'est soit on enlève les dépenses, on coupe dans les dépenses, ou on augmente les revenus par des taxes ou des impôts supplémentaires.
Bien, c'est sûr que nous autres, on aurait voulu avoir là, qu'est-ce qu'ils vont faire justement pour arriver à atteindre l'effort de 14,5 milliards. Là. Et là, on n'a pas tout ça dans celui de mars 2025, mais qui a été... Il y a eu d'autres mises à jour au cours, mais c'est encore non précis.
Encore très flou. Ouais. C'est très flou. Vous dites aussi mauvaise planification des infrastructures. Et là, vous êtes assez incisif. Là. On dit que le programme, le plan québécois des infrastructures ne présente pas les sommes nécessaires à l'égard des projets inscrits. Autrement dit, on a plein de projets inscrits, mais on est flou sur les coûts que ça va coûter. Puis on laisse entrevoir aux gens, bien, tout ça va se faire. Là. Un troisième lien, ça va se faire. Un tramway, ça va se faire. Mais on n'a pas idée comment ça va coûter en bout de course ou en bout de ligne.
Le PQI, c'est ça qu'on vous l'avait appelé, le Plan québécois d'infrastructure. Là, Alors, comme vous l'avez mentionné, il y a des projets là-dedans. Mm-hmm. Donc, il y a des projets inscrits. Ce qu'on dit, bien, pour prendre une bonne décision, il faut avoir toute l'information, savoir combien ça va tout coûter, ça. Puis après ça, tu pourras prendre des décisions. Mais là, si tu ne mets pas tous les montants pour lesquels ces projets-là sont inscrits, il manque 75 milliards de dollars, bien, c'est difficile de prioriser, c'est difficile de faire des choix.
Là, vous dites, sur les lignes qu'on a là, d'inscrits, les coûts inscrits, c'est 164 milliards jusqu'en 2035. Là, vous venez me dire qu'il manque comment 75 milliards?
75 milliards là, pour les projets inscrits, mais il en manque aussi d'autres à l'égard, notamment, là, il y a l'inflation qui n'est pas toujours considérée pour les... parce qu'il y a les coûts de réalisation des projets, mais il y a le maintien. Pour le maintien, on ne considère pas toujours justement là, l'inflation. Fait que là, ces montants-là sont sous-estimés. Moi, je ne suis pas capable de... Si votre prochaine question, c'est de savoir combien exactement en maintien d'actifs. Je n'ai pas la réponse, mais je le sais qu'ils sont sous-estimés.
On donne l'exemple. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui devait... en tout cas, on devait la rénover ou à tout le moins lancer des travaux, mais beaucoup plus loin là, dans le temps. Puis on l'a amené rapidement, mais on n'a aucune idée combien ça va coûter, hein, c'est ça?
Ben, c'est parce que justement, vous donnez l'exemple de l'hôpital Maisonneuve, pour bien évaluer les coûts de maintien d'actifs, pour savoir son état. Et là, je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre. Là, l'état de Maisonneuve-Rosemont, elle est considérée, par l'information qu'ils ont, en très bon état. Mais je pense que vous parlez en tout cas aux gens de Montréal qui se connaissent encore mieux le dossier d'un méthode de Maisonneuve. Elle n'est pas en bon état parce que la méthode qu'ils emploient, elle n'est pas adéquate. Il emploie une mauvaise qui fait que... Donc, si vous surévaluez l'état de plusieurs bâtiments, en tout cas, du secteur de la santé, c'est plus typique dans le secteur de la santé, ben tu vas considérer que tu as moins besoin d'argent pour les maintenir parce que tu considères... Prenons votre exemple, si vous considérez votre maison qui est en très bon état, mais que dans les faits... c'est pas le cas, ben vous allez dire ah, moi j'ai pas besoin de maintien, mais non, au contraire, si son état, c'est la toiture doit être changée, les murs doivent être changés, et ainsi de suite, ben ça sous-évalue les coûts de maintien.
Oui, puis là, si on dit qu'on a 164 milliards de projets annoncés, puis il en manquerait 75 milliards, ça, c'est des déficits à venir incroyables là, des prochaines années.
C'est des enjeux, en tout cas. C'est des enjeux. Nous, ce qu'on dit, c'est que.
Vous levez le drapeau rouge, là, c'est ça?
Ben, c'est ça, puis on doit avoir le portrait de la balle pour justement, là, avec quatre, tout le portrait de la balle. Si tu veux tout faire ça, ben Il va y avoir des choix qui devraient être faits. Là. C'est ça qu'on mentionne, nous, principalement.
Oui, puis il y a une loi sur l'équilibre budgétaire, hein, qui avait été adoptée. Là, je pense qu'elle est levée, ça se peut?
C'est non, ça? Elle est encore là.
Elle est encore là, puis on continue à faire des déficits.
Bien, on a fait des déficits au cours des dernières années. Et là, comme peut-être que c'était pas clair tantôt, mais en mars 2025, ils ont déposé un programme, justement, pour venir à équilibre en 29-30.
Oui.
Et c'est là ce qu'on dit, bien... Les mesures pour venir à l'équilibre budgétaire sont pas claires. Il y en a qui n'ont pas été identifiés, mais là, c'est pour ça que nous autres, on veut qu'ils soient identifiés.
Oui. Donc, ça va être à suivre, certainement. Les délais sous-estimés en médecine spécialisée, là aussi, vous levez des drapeaux.
Pour les médecines spécialisées, effectivement, là, puis là, autant là, qu'il y a différentes portes d'entrée là, pour aller... rencontrer une première fois un spécialiste. Là. Et là, il y a des délais très longs. Là, parce qu'il y a des dates, il y a des délais qui ont été déterminés. Puis si ça dépasse ces délais-là, ben, il y a un risque que la santé du patient là, soit se détériore. Et là, c'est de façon importante des enjeux. Autant que si vous passez par le fameux CRDS ou encore dans les établissements, il y a différentes listes d'attente. Fait que nous, on dit ben il y a des enjeux importants. Puis, ce qu'on dit aussi, c'est que pour les spécialistes, ben pour nous, pour bien gérer, il faudrait que le ministère connaisse l'offre et la demande. Puis là, ben la demande, il connaît rien que 20% de la demande. Le reste, là, à savoir qu'est-ce qui passe par le CRD ailleurs dans le cabinet, il n'est pas au courant. Mais il y a des enjeux importants pour rencontrer un spécialiste.
Donc, on sous-estime les rendez-vous pris ou à tout le moins les gens qui sont en attente, là, c'est ça qu'on comprend?
Le nombre. Mais ceux que nous, on a été constatés, même si le ministère n'est pas au courant, exemple, des listes d'attente dans les établissements, on y a été, nous autres, dans deux établissements. Et on a constaté qu'il y a des enjeux également pour rencontrer, même si vous passez par l'urgence ou d'autres moyens, il y a des enjeux également dans ceux. Dans le fond, il y a des enjeux, quelle que soit la manière que vous voulez rencontrer un spécialiste, il y a des enjeux.
Oui. Là, on disait au 18 octobre, il y avait 909 000 personnes en attente d'une consultation en médecine spécialisée. Donc, c'est du monde à la messe pareil, là.
Exact, mais juste la précision, que je veux juste clarifier peut-être mes propos.
Ouais.
Le nombre que vous avez mentionné, ça, c'est juste pour 20 % des demandes, parce que le ministère, il est au courant, juste lui, de ceux qui passent, en tout cas, par un endroit qui est le CRDS. Il y en a d'autres ailleurs. Là,
donc, il y en aurait d'autres, mais ils sont pas, on ne connaît pas l'état, l'ampleur.
Exact. Nous, on n'a pas la prétention de l'avoir, mais on était quand même dans les établissements pour voir. Oui, les deux établissements, ils ont des listes d'attente. Et pour ceux qui sont là, il y en a un bon nombre qui sont hors délai. Fait qu'il y a des enjeux là-dedans. Et donc, pour nous, le ministère devrait avoir un portrait de la balle.
Également, un autre dossier que vous avez étudié, les étudiants étrangers, des quotas sans analyse approfondie. Ça aussi, c'est inquiétant?
Bien, pour nous, là, c'est ça. C'est toujours... là. On vient de parler de trois dossiers. Ces trois dossiers-là, c'est toujours d'avoir la bonne information. Et là, pour les étudiants étrangers, prenons l'exemple. Un étudiant étranger, eux autres, le ministère, ce qu'ils surveillent surtout, c'est le nombre de certificats qui est mis. Mais il y a une grande différence dans le nombre de certificats qui émet versus le nombre d'inscrits. Fait que nous, on dit, ben, parce que l'étudiant étranger, il peut faire plein de demandes là, ailleurs, là, dans d'autres provinces, dans d'autres pays. Puis au bout de la ligne, il peut décider de pas... pour venir à l'école nulle part dans le monde. Là. Il peut décider qu'il...
Il reste chez eux, ouais.
Il reste chez eux. Mais il y a une grande différence. Nous autres, on dit, bien, surveiller justement le nombre d'inscrits. C'est ça la donnée importante, justement, pour établir les quotas, parce que c'est très variable. Puis en plus, quand ils ont établi des quotas, il y avait des données qui étaient inadéquates. Par exemple, il y a certains établissements qu'on leur a donné zéro quota, alors qu'ils n'ont des établissements, des étudiants étrangers. Fait que c'est pour ça que nous, puis il y a aussi des programmes qui sont en difficulté, qui n'ont pas tenu compte lors de l'établissement des quotas, parce qu'il y a des programmes dans des régions moins, je dirais, moins denses. Alors, il y a des programmes, là, qu'eux, ils dépendent des étudiants étrangers.
Oui, non, c'est ça. Exactement. Puis on dit qu'après, on ne sait pas de quoi il advient de ces étudiants-là. Hein? Ils sont rendus où?
Exactement.
Il n'y a pas de suivi,
là. C'est un de nos constats que, pour être bref, mettons qu'Alain Fortin et d'autres, là, ils viennent. Mais premièrement, on ne sait pas si Alain Fortin il est venu. Puis après ça, s'il est venu, on ne sait pas s'il s'est inscrit dans le programme.
Ouais.
Puis après ça, une fois, si jamais Alain Fortin finit son cours, ben on ne sait pas, il est-tu resté au Canada?
Ouais, il a-tu fait une famille ici? Il est parti?
Il est-tu resté au Québec? Puis s'il reste au Québec, es-tu resté dans la région où tu as étudié? Parce que là, nous autres, après ça, on n'a pas juste fait dire, ben vous ne savez pas. On a pris les données, nous autres. Puis on a analysé, puis on a constaté que, justement, en nombre, c'est vrai qu'ils restent de plus en plus au Québec, mais en pourcentage, ils vont davantage dans d'autres provinces. Même s'ils viennent chez nous, ils vont, par la suite, il y en a de plus en plus qui vont en Ontario ou dans d'autres provinces.
Donc, on peut échapper comme ça des étudiants étrangers qui seraient une mine d'or pour le gouvernement du Québec. Parce que
c'est pour ça que nous autres, on dit qu'il doit avoir de l'information. Puis après ça, ce qu'on constate, c'est qu'on a regardé voir il y a une certaine vers l'attraction de Montréal. Montréal, la grande région de Montréal.
Oui.
Avec les étudiants qui étudient ailleurs, il y en a un bon nombre qui vont à Montréal. Fait que nous, on dit, ben, tu dois avoir cette information-là pour prendre les bonnes décisions, pour agir. Puis on l'a démontré, là, que on n'a pas été juste théorique, on a pris des chiffres et on les a fait parler.
Mais c'est incroyable, M. Fortin, parce que si je comprends bien l'ensemble de ce que vous nous dites, c'est qu'on accepte qu'il y a des gens qui arrivent ici au Québec, puis après ça, on n'a aucune espèce d'idée de ce qu'ils ont fait, de où ils sont rendus. On n'a aucune donnée là-dessus. C'est ce que je comprends, là.
Bien, je veux pas rachérir, mais même on émet des certificats, mais c'est rien que ça qu'on suit. C'est le nombre de certificats. On ne sait même pas si l'étudiant est venu, oui ou non, étudier au Québec. Puis bien entendu, si on ne sait même pas s'il est venu au Québec, il est-tu venu après ça, est-tu resté, et ainsi de suite. Là.
Est-ce qu'il se sert du Québec comme une porte d'entrée pour transiter ailleurs, dans un autre pays, genre les États-Unis?
Ouais.
On ne le sait pas.
Bien, c'est ça qu'on dit, nous autres, ils doivent faire le suivi. Là, ces gens-là, ils s'inscrivent-tu? Après ça, est-ce qu'ils restent au Québec? Est-ce qu'ils restent au Canada? Et ainsi de suite, là. Mais on l'a fait certaines, nous, on l'a fait des données pour voir qu'il y avait une grande accord entre le nombre de certificats qui s'inscrivent.
Et la réalité,
ça, ainsi de suite. On a fait des chiffres pour montrer que ça se fait, là, c'est possible. Là, on n'a pas juste resté théorique. Là.
Ouais. L'autre préoccupation, carte de crédit des fonctionnaires, des milliers de dollars en intérêts. Ça aussi, c'est préoccupant. Là. On prend des cartes de crédit, on paye, mais on paye les intérêts, puis à un moment donné, on payera le total à un moment donné. Là.
Pour nous, c'est ça. C'est un manque de contrôle à l'égard de tout ça. Même si, bon, il n'y a pas des millions et des millions en jeu, il n'en demeure pas moins que ce serait, somme toute, facile d'avoir des contrôles pour s'assurer de ne pas payer des intérêts là, à l'égard de la carte d'affaires là, qui est utilisée.
Oui, mais vous avez quand même pris 5 entités. Là. Vous avez pris Investissement Québec, ministère de la Sécurité publique, ministère des Transports, entre autres. Puis il y avait quand même 20 000 piastres d'arriérage en paiement en 2022-2023. De 2022-2023 à 2024-2025, 20 000 piastres en intérêts seulement. Mais si on le prend pour l'extrapole au gouvernement complet, ça peut représenter des gros montants d'argent quand même.
Ben, on a pris pour aussi, on a été en mesure de pour aller pour... X nombre, entre autres, on a pris pour d'autres noms, là, puis on était capable de retracer pour environ 40 000 $ d'intérêt aussi. Là.
Donc, quand même, c'est gros montants?
Bien, c'est pour nous, là, c'est un contrôle là, qui arrive dû se faire là, à l'égard du justement des paiements d'intérêt. Mais aussi, il y a d'autres éléments qui auraient dû se faire, parce que maintenant, pour les cartes de crédit, on a constaté pour 4 des 5 entités, là, 40 % qui n'avaient pas le motif. Le motif, c'est important parce que. Ben... Même si j'ai la facture, mettons que vous avez été dans un restaurant, oui, mais avec qui tu y as été, c'était pourquoi l'objectif, puis combien vous étiez, j'exagère, mais si vous êtes 20 autour de la table ou 2 autour de la table, bien, une facture peut... En tout cas, la raisonnabilité peut être très différente.
Bien, je sais que le Revenu Québec le demande là, pour les entrepreneurs, avec qui tu étais, puis que quand tu veux déclarer une dépense là, comme ça. Donc, ça sera moins des choses que nos fonctionnaires déclarent ça aussi, là.
Ben nous, c'est ce qu'on mentionne, puis on a une recommandation à cet égard-là, que le motif devrait être là pour justement évaluer, être en mesure d'évaluer la pertinence et la raisonnabilité. Et dans 40 % on n'a pas trouvé ça pour 4 entités. Là. Juste une précision, on a pris, oui, c'est vrai, 5 entités, mais ils représentaient quand même 25 % des cartes émises pour le projet carte d'affaires et aussi 25 % du volume là, des achats de cartes de crédit.
Parce que, M. Fortin, il y a des gens qui nous écrivent en direct puis qui disent travailler dans le domaine de la santé puis qui ont vu passer là, une facture de carte de crédit avec un paiement minimum de 3 000. Ma question, c'est comment ça se fait qu'un ministère ou un bureau ne paye pas la carte de crédit au complet chaque mois? Là? Je me semble qu'ils ont l'argent pour le faire.
Bien, ce qu'on a constaté, mais encore une fois, nous, on n'est pas... Nous, sur le moyen, on n'est pas là. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'il y en a que ceux qui ne payent pas d'intérêt, là, ils ont le paiement préautorisé.
Ouais.
Fait que ça arrive, puis tout, c'est...
Ça va, ça paye. Mais là...
C'est ça. Mais oui. Nous, on n'est pas sur le moyen. Là. Tout ce qu'on constate, ben, quand c'est le paiement produit, c'est rare qu'il y ait des intéressés. Il y a des petits cas, des fois, quand on met un petit bug informatique, là, ouais. Mais il n'a pas d'intérêt là, qui est... Mais pour nous, bon, si une entité dirait non, moi, je veux pas le paiement de rejet, ben, pas de problème, mais assure-toi de ne pas payer à la fin du mois des intérêts. Là. C'est, oui. Ça qu'on, c'est ça qu'on mentionne. Là.
OK, excellent. Ben, Alain Fortin, vérificateur général par intérim, est-ce que le job vous intéresse? Est-ce qu'on va vous offrir le job?
Ah, ben nous, on n'est même pas impliqués dans le processus. Okay, dans c'est le bon. Processus-là, c'est le gouvernement, c'est le premier ministre avec les autres partis là, qui décident. Comment ça va fonctionner? Nous, au vérificateur général, on n'est pas impliqués d'aucunement dans le processus de nomination.
En tous les cas, beaucoup de commentaires positifs sur votre travail. Donc, j'espère qu'Alain Fortin va être, comme on dit...
Reconduit.
Oui, reconduit voilà. Et devenir le vérificateur général du Québec. Merci beaucoup, M. Fortin. À la prochaine.
Merci beaucoup. Merci, bonjour. Bonne journée. Voilà.
Merci.
Tu sais, c'est une question de resserrer là, tes vérifications. Resserrer un peu le... Ta job de bureau.
Le contrôle?
Exact, c'est le mot que je cherchais.
C'est du contrôle.
Tu sens le contrôle, puis tu t'assures que toutes tes cartes de crédit de ministère soient payées à chaque mois.
Non, mais tu vois-tu le bordel? Là? Et là, dans le cas, là, il a fait quoi? Ils ont juste vérifié cinq entités, là, dont Investissement Québec. Il doit s'en payer des lunchs, là.
Oui, oui, mais...
Ministère de la Sécurité publique, ministère des Transports, je comprends, là, mais... Tu sais, ça moindre des choses. Paye tes cartes de crédit, là.
C'est pas parce qu'ils n'ont pas l'argent. L'argent là, est autour de vous.
Ben, l'argent, ils ont des crédits annuels donnés. L'argent...
Non, mais je veux dire, c'est ça, lui. Ouais. C'est pas comme quelqu'un, un particulier, que sa carte de crédit est à côté de la barre puis qu'il est juste capable de faire le minimum. Là.
Exact. Bon, après la pause, on va ouvrir les lignes.
88-670-9098.
La question.
Ben, avez-vous confiance? T'sais, on vous présente un budget, il manque 75 milliards pour les infrastructures.
Ben oui, c'est ce qu'il dit, lui.
75 milliards, il manque ça, là.
Ils ont identifié 164 milliards de projets d'infrastructures d'ici 2035, mais selon l'analyse du VG...
Pas d'argent.
Il manque 75 milliards.
À moins. Troisième lien.
Mais, entre autres, mais il y a plein d'affaires, là.
Réparation des routes.
Ben,
les hôpitaux, les écoles.
Les ponceaux. Quand on parle au ministère des Transports, là, les routes, il y a des E, puis il y a des F, puis il y a des G, puis il y a des H là, dans
ben
la ouais, lettre.
Tout va tomber. Qu'est-ce qui...
Ben,
pas d'argent.
C'est ce qu'il dit. Puis il dit, le budget fait tout croche.
Vous en pensez quoi?
On veut vous entendre. Avez-vous confiance? Parce ouais. qu'ils nous présentent ça comme si c'était, là, ils savent compter, puis le ministre des Finances. Puis là, finalement, le VG passe là-dessus, puis il dit, attends une minute, là.
Tu 75 milliards, Pierre, c'est pas...
Ben, tu veux revenir à l'équilibre budgétaire 2029-2030, il va manquer du cash. Il dit, c'est plusieurs... C'est quoi, il parle de plus de 10 milliards, ouais. là, qu'il va manquer. Ils vont trouver où, l'argent? Dans vos poches, j'imagine?
J'imagine. 88-670-9098.
On revient après la pause.
Et à un moment donné, les gens verront les vraies réponses. L'argent, là, est autour de vous.
Couture dans le mid.
Téléphone, texto.
Okay. 88-670-9098. Trésor. Radio et Ouellet. En direct.
Avec JC et Patricia. En direct. Lundi au vendredi, midi.
Radio X.
Voilà en direct présenté par l'entrepôt de la Renault. Chez nous, vous allez en avoir plus pour votre argent. Si vous ne me croyez pas, ben passez nous voir au 9030 John Simon, sortie Chauveau sur Henri IV. L'entrepôt de la Renault.
L'événement de l'après-Noël est en cours chez l'équipeur. Obtenez 25% de rabais additionnel dans tout le magasin jusqu'au 28 décembre. Économisez jusqu'à 60% sur les aubaines à tout casser. Vos marques préférées pour l'hiver chez l'équipeur et sur l'équipeur.com. Prix des aubaines à tout casser tel qu'indiqué.
Chez Couche-Tard, obtenez un billet Célébration 2026 gratuit à l'achat de deux caisses de 18 ou 20 sélectionnées. Parmi celles-ci, profitez du prix minimum sur la caisse de 18 Budweiser. Dépêchez-vous, l'offre est limitée. 18 ans et plus, consommez de façon responsable.
Solde d'après Noël, matelas Dauphin. Tous les matelas Dauphin sont réduits de 50% pour 6 jours seulement. Du 26 au 31 décembre, tous les matelas et sommiers fabriqués par Matelas Dauphin sont offerts à 50% de rabais dans tous les matelas Dauphin.
Plongez dans 888casino.net, conçu pour jouir des machines à sous primer, pour découvrir un monde de plaisir. C'est fait pour divertir. Pour se délecter de la roulette. Super!
C'est juste pour jouer.
Ouais, ça marche! 888casino.net.
fait pour jouer.
19 plus, jeu gratuit uniquement, jouer de façon responsable.
Béton Laurier vous souhaite de joyeuses fêtes et une année remplie de succès et de bonheur. Merci de faire partie de notre grande famille. Pour vos besoins en matière d'excavation, fondation, fourniture de béton, grues et concassage, pensez à Béton Laurier, votre partenaire de confiance. BétonLaurier.com.
Montréal Live, The Best Of. En fait, Dan, c'est pas vraiment un Best Of,
c'est un Making Of. En fait, c'est pas compliqué, c'est les Director Cut. On arrive, puis on vous dit pourquoi est-ce qu'il y a un ombrage là, pourquoi est-ce qu'il fait soleil dans cette scène-là, puis pourquoi André Arthur est si drôle.
Au Canada, qu'est-ce qui inspire ça? Pourquoi vous avez fait ça? Et pourquoi pas Pat et Jean-Claude? On a fait une coupe de montage quand même.
Dans le temps des fêtes, ça va être dans le pâté au saumon, Doom!
J'ai rien d'autre à dire. Morey Live, The Making Of, le 25 décembre et le 31 décembre. Dans le pâté au saumon, oui, papa. Oui, papa.
Radio X.
Notez que l'émission d'aujourd'hui est une rediffusion. Veuillez ne pas tenir compte des numéros de téléphone, dates et concours dans le prochain segment.
Ouellette.
Bravo.
En direct.
Bravo en passant.
En direct. Avec JC.
En direct.
Et Patricia.
Radio.
Radio
X.
Vous connaissez tous notre amour commun pour Morgan Freeman. Oui. Je l'adore, pour vrai. Oui, ben oui, ben oui. Un acteur incroyable. Ben oui. Et c'est celui qui a le mieux résumé ce que je pense quand on touche le sujet du racisme. Oui. À un moment donné, en entrevue, il se fait poser beaucoup de questions là-dessus. Puis il dit, je suis comme un peu tanné. Mm. Tu sais, il dit, oui, mais quand est-ce qu'on va arrêter le racisme? Puis il dit, on va arrêter le racisme quand on va arrêter d'en parler. Mm. Quand on va arrêter de le voir. Quand on va arrêter de faire référence à ça, à la couleur de la peau, à l'endroit d'où tu viens. Tu sais, il dit, ce jour-là, ça, on va avoir fait un grand pas. Et je suis 100% d'accord. Moi, quand je parle à quelqu'un, ça m'intéresse pas vraiment la couleur de sa peau, tu comprends? Mm-hmm. J'essaie de pas penser à ça, mais on nous le ramène constamment. Et bizarrement, ça vient toujours, tu sais, du côté de bon, le blanc qui a opprimé. Et je suis conscient de l'histoire. Faut pas l'oublier, l'histoire. C'est important, là, tu sais. Effectivement, il y a eu un débalancement total et très grave dans l'histoire de l'humanité qui touche effectivement la couleur de la peau des gens. Mais je trouve que ce qu'on est en train de faire là depuis, c'est pas nouveau, depuis des années, on veut retourner un débalancement dans une espèce d'optique de vengeance ou de je sais pas quoi. Et ça amène des dérives assez impressionnantes. Au début du mois d'août... C'est très impressionnant. Là. C'est impressionnant. Là. Au début du mois d'août, pour la première fois dans l'histoire judiciaire du Québec, il y a un criminel qui a réussi, je sais pas, il a pas réussi, en fait, c'est la juge qui lui a donné une peine diminuée. Ouais. Donc, il va faire un an de moins de prison à cause du racisme systémique. Donc, on a utilisé l'argumentaire du racisme systémique pour dire cette personne-là, juste du fait de la couleur de sa peau, doit payer moins que quelqu'un d'autre qui n'a pas la même couleur de peau pour le même crime. Là. Ouais. Puis on est allé même chercher des références que la famille de la mère avait connu l'esclavage, donc il y avait un post-traumatique de ça. Mais c'est juste que la victime, maintenant le criminel qui est super bien protégé, la victime peut être blanche, noire, d'origine... Ben oui, mais ça, on n'en parle même pas. Là. Non, mais c'est ça, c'est parce que la victime, là, des fois, est de la même couleur de peau. Absolument. Alors, c'est le criminel qui est plus protégé, mais la victime, là, elle le subit, puis on n'en parle même pas dans l'équation. Mmh. Ben écoute, moi, j'en parle, toi, t'en parles, évidemment. Je regarde ma peau, je vois, elle est pas mal pâle. Mmh. Donc, évidemment que, automatiquement, dans certains cercles, moi, j'ai osé aller jusqu'à dire des cercles assez radicaux, on va automatiquement se faire traiter de raciste. Mais notre prochaine invitée, je trouve ça intéressant parce que dans l'article que j'ai ici sous les yeux, où elle s'est exprimée, elle fait une sortie publique, elle-même se dit « Moi, je fais partie de ce qu'on appelle la clientèle racisée. » Donc, on va aller lui parler à l'instant. Elle est présidente et cofondatrice de l'Association des Québécois unis contre le racialisme. Et elle s'appelle Muriel Châtelier. Bonjour, Madame Châtelier. Comment allez-vous?
Bonjour à vous deux. Je vais bien, vous?
Ben oui, ça va très bien. Puis d'entrée de jeu... puis je pense que ça peut être dans le bénéfice de tous les auditeurs. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est le racialisme?
Oui, ben en fait, le racialisme, c'est de mettre la race au centre de nos enjeux sociaux. C'est d'essayer d'expliquer toutes sortes de phénomènes sociaux, justement, avec la race. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau au Québec, qu'on essaie vraiment d'expliquer tout. C'est le racisme qui est derrière tel phénomène. Donc, c'est ça, le racialisme pour moi.
Et vous, vous avez fait une sortie, puis j'imagine que dans votre communauté, c'est pas accueilli à bras ouverts partout, parce que vous avez fait une sortie contre ce qui s'est passé et contre le fait qu'on utilise cet argument-là de racisme systémique dans des cas de crime. Là, on parle de criminels. Expliquez-nous pourquoi.
Ben, je trouve que c'est un peu aberrant qu'on fasse une présomption de racisme dans n'importe quel cas. Donc ici, avec ce jugement-là, c'est comme si on disait, ben, tous les Noirs, dans le fond, ils ont vécu du racisme systémique. Donc, à partir de là, on va prendre ce concept-là en compte à chaque fois qu'il y aura une peine qui va être prononcée contre une personne racisée. Donc, je trouve que c'est aberrant. Puis c'est aberrant surtout parce que la majorité des victimes de ces criminels-là, ben, c'est des personnes qui sont de la même origine. Donc, est-ce que la couleur de la peau du criminel est plus importante que la couleur de peau de la victime? On se pose des questions, puis je trouve ça extrêmement aussi insultant pour la victime de se faire d'être à la cour et de se faire dire, ben le contrevenant, lui, ben on va prendre en considération sa couleur de peau pour diminuer sa peine, alors que vous êtes aussi une personne racisée, mais ça ne compte pas. Donc j'ai beaucoup de difficultés à comprendre comment est-ce qu'on peut croire que, premièrement, que ça va faire un changement significatif, mais je peux pas croire qu'on pense que vraiment c'est une très bonne idée et que ça va aider, par exemple, les personnes racisées. Je vois pas où est-ce qu'on pense que il va avoir quelque chose de positif à tirer de telles décisions.
Puis comprenez-moi bien, Mme Châtelier, puis je le disais dans l'intro, puis je suis certain qu'on va être d'accord, là, on est tous conscients des inégalités qui ont eu cours dans l'histoire de l'humanité. On a tous compris que l'homme blanc européen avait fait des choses horribles, mais à un moment donné, de jouer sur l'enjeu de la déresponsabilisation individuelle, on est tous ici ensemble au Québec. Ça vient pas, à la limite, pas justifier, mais conforter un criminel qui va se dire, ben moi, c'est normal. C'est normal que je sois comme ça. J'ai vécu du racisme systémique. Il y a quelque chose qui m'agace énormément dans le fait qu'on dirait qu'on décolle la responsabilité individuelle de quelqu'un qui commet un geste. En plus, comme vous le dites si bien, des fois envers quelqu'un d'autre qui est lui aussi racisé, mais là, on rentre pas ça dans l'équation. Il y a quelque chose où je sais pas. On doit quand même être un individu responsable de ses actes, peu importe la couleur de la peau. Là,
c'est... Absolument. Puis je pense que quand un criminel devient criminel, c'est un choix. C'est pas la société qui lui a imposé, c'est pas le racisme systémique je sais pas, qui lui a envoyé une lumière puis qu'il est devenu un criminel. Donc c'est un choix. Puis je pense qu'on déresponsabilise constamment les criminels, particulièrement les criminels violents. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on en est là. Et avec cette façon de faire, avec ces rapports-là, c'est comme si on disait qu'une personne noire était prédisposée à devenir un criminel.
C'est limite insultant.
Exactement, c'est très insultant pour les personnes racisées d'être présentées comme ça, parce que je tiens à le rappeler, la majorité des gens, qu'ils soient racisés ou pas, ne sont pas des criminels, ne choisissent pas le chemin de la criminalité. Donc, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Puis, je pense que c'est important aussi qu'on remette de l'avant les victimes. Parce que là, on parle constamment de surreprésentation des criminels, mais il y a aussi une surreprésentation des victimes, puis c'est des données qu'on peut trouver sur le site de Statistique Canada. Donc, je pense que nous, en tant que société, je veux dire, si on doit prioriser les droits de quelqu'un, ou je veux dire, tout le monde a des droits, mais je veux dire, les victimes, il faut qu'on en parle. Puis aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on met toutes sortes de mesures en place pour ces criminels-là qui ont fait, encore une fois, on le rappelle, des mauvais choix dans leur vie. Donc, c'est comme si on priorisait leurs droits au détriment de ceux des victimes qui subissent les méfaits de ces personnes-là.
Souvent, dans les médias, on va entendre plutôt le discours contraire. Fait que votre sortie, moi, je l'ai trouvée surprenante et je me suis demandé comment elle était prise, cette sortie-là, à l'intérieur de votre communauté. T'sais, est-ce que vous peut-être que vous n'avez pas de réaction non plus, puis c'est moi qui crois ça, mais est-ce que vous avez beaucoup d'aide ou les gens sont un peu choqués de votre sortie?
Ben, je dois dire que, mes prises de position sont très critiquées, c'est vrai. Toutefois, dans mon association, il y a quand même des personnes dites racisées. Donc, est-ce que c'est vraiment ces gens-là représentent la majorité? J'en ai aucune idée. Mm-hmm. Mais tu sais, dans mon association, vraiment, on est comme les Nations Unies, là. Vraiment, on vient de partout. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui sont avec moi dans ce combat-là. Donc, oui, je suis extrêmement critiquée constamment. Je suis sous les feux de la rampe, mais j'ai aussi beaucoup de personnes qui m'appuient. Donc, il y a des gens qui m'écrivent justement pour me dire, Muriel, merci de dire ce que nous, on n'ose pas dire. Merci d'être notre voix. Donc, mais je ne pourrais pas dire, est-ce que c'est une majorité, est-ce que c'est une minorité? Je ne sais pas, mais c'est sûr que oui, je me fais critiquer beaucoup.
Ça vient d'où l'envie de ça, de dire, ben moi, voici mes valeurs, donc je vais fonder l'Association des Québécois unis contre le racialisme. Pourquoi vous avez décidé de partir ça, cet organisme-là? Ça vient d'où?
Ben, ça vient du fait que j'étais tannée d'entendre des militants parler en mon nom. J'étais tannée de les entendre aussi faire un procès au Québec que je trouve qui est totalement injuste. Et je me suis dit, je ne suis pas la seule qui pense comme je pense, il y en a d'autres. Donc, il faut entendre ce contre-discours-là. Je trouvais que c'était important parce qu'à écouter les médias, on avait vraiment l'impression que tout le monde, toutes les personnes à la peau noire, pensaient de la même façon, qu'on était d'accord, qu'on adhérait, par exemple, au concept de racisme systémique, alors que c'est totalement faux. Donc, pour moi, c'était important de ramener un équilibre dans les débats. Et c'est ce que j'ai fait. Puis, au fur et à mesure, ben, mon mouvement a grandi. Tu sais, je me fais de plus en plus connaître avec tous ceux qui me soutiennent. Donc, je trouvais vraiment que c'était vraiment important, là, parce que moi, tu sais, je suis né au Québec.
Oui.
Et puis, ben, j'aime ma patrie, j'aime mes concitoyens. Donc, il fallait que je le dise. Tu sais, que je me sens bien chez nous. Quand je pars en voyage, quand je reviens chez nous au Québec, je dis « Mon Dieu, je suis tellement bien chez nous ». Donc, c'était vraiment important pour moi de faire passer ce message-là puis de dire que non, on n'est pas un groupe monolithique. Puis, il y a différentes opinions qui circulent
Et elles valent aussi, ces opinions-là. Oui, c'est ça, elles sont valables. Donc, j'imagine que... en passant, c'est rafraîchissant d'entendre ça parce qu'on l'entend très peu. Donc, je suis vraiment contente qu'on...
Les auditeurs sont très contents de vous entendre aussi. Et c'est très unificateur, votre discours, en passant.
Oui, c'est ça.
J'ai l'impression que vous êtes avec nous, on est avec vous. On est tous ensemble. Il n'y a pas de couleur dans l'histoire, là. Il y a des victimes et il y a des criminels.
Ben moi, pour moi, c'est ça, on est une équipe et puis pour moi, c'est important qu'on partage des valeurs communes et puis qu'on valorise ces valeurs communes-là parce que ben, pour moi, c'est la recherche du commun qui est important pour moi. Mmh. C'est aussi l'universalisme et c'est là-dessus que notre mouvement y est fondé, donc une égalité des droits pour tous. Donc moi, je ne veux pas de privilèges. À cause de ma couleur de peau, je suis né ici, j'ai été élevé dans le même système, je veux dire, j'ai été formé dans le même système que n'importe qui, donc je vois pas pourquoi est-ce que j'aurais des privilèges.
Donc, tout le système de subvention là, du fédéral qui est accordé si on engage des minorités visibles, vous êtes pas d'accord avec ça?
Non, moi, je veux rien savoir. Moi, jamais de ma vie, je n'ai coché de petite case dire que je suis une minorité visible parce que pour moi, c'est important d'être considéré comme n'importe qui. Quand je postule pour un emploi, c'est important qu'on me considère sur la même base que n'importe qui. Donc, c'est pour moi, en tout cas, personnellement, moi, j'adhère pas à ces idées-là. Je veux absolument pas de passe-droit. Puis pour moi, c'est ça la vraie égalité. Si on veut vraiment, si on vise vraiment une égalité, c'est par là qu'il faut passer. Il faut qu'on soit égaux à tous les niveaux. Et je sais que certains vont dire « Ouais, mais il reste encore des inégalités. » C'est vrai. Malgré ça, je pense que même si c'est une réalité, je pense que si on vise vraiment une égalité, il faut commencer maintenant indépendamment de toutes les inégalités qui peuvent exister. Pour moi, c'est le seul chemin vers une véritable égalité.
Donc, j'avais, moi, comme modèle Morgan Freeman et maintenant, c'est Muriel Châtelier. Merci beaucoup, Madame Châtelier.
Mais ça m'a fait plaisir. Et en passant, j'aime beaucoup Morgan Freeman, moi aussi.
Ah oui, il est extraordinaire. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.
OK, merci. Au revoir.
Au revoir. Wow. Muriel Châtelier, elle est présidente et cofondatrice de l'Association des Québécois unis contre le racialisme. Wow!
Wow!
Mais c'est ça. Tu sais, un monde où il n'y a plus de racisme, là. Écoutez tous, réécoutez l'entrevue, là. C'est ce monde-là.
Ben oui.
Puis,
ah oui.
Moi, j'en veux pas plus des passe-droits parce que je suis blanc. Là.
Non, non, moi non plus.
Je veux qu'on soit tous ensemble. T'es le meilleur, prends un job.
Oui, voilà.
Puis, je le sais qu'il y a des. Puis, elle l'a dit, puis là, on n'a plus le temps, il faut aller à la pause. Mais, tu sais, elle dit dans sa sortie aussi, il faut s'attaquer aux vraies causes. L'éducation, le manque d'éducation, la pauvreté.
Oui.
Ces gens-là, des fois, arrivent de loin, là. C'est ceux qui se ramassent dans des endroits où c'est miteux avec du monde qui louche.
Le sentiment d'appartenance.
Des gens bizarres. Puis c'est sûr que ceci entraîne cela, mais la vraie job commence à la base. Faire en sorte que ces gens-là puissent vivre comme tout le monde, puis il n'y en aura plus de problème. Là. Mais écoute, là, j'ai l'impression que je vais m'auto-nommer John Lennon. Je vais arrêter ça.
Ils gardent leur responsabilité aussi de leurs actes.
Ça, c'est il faut que ça soit universel.
Peu importe t'es qui, t'es responsable de tes faits et gestes.
Tes actes, tes conséquences.
Voilà.
13h50, on revient.
Ouellet, bon. En direct.
Ah, de quoi?
Petite pause. On revient dans pas long.
Radio X. Bloopers. 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 Bloopers.
One, two, check.
Yeah! Boom!
Ça me semble que ça a sorti bizarre, hein? Ouais, que je recommence. C'est écrit angoissé. Oh, encore une facture d'électricité qui explose. C'est correct.
Oh, ouais. Hein? Oh, ouais.
Ça me semble que ça a sorti bizarre, hein?
Oh, ouais.
Non, faut, je pense qu'il faut juste en face de l'aéroport, c'est ça? Je chante pas le jingle. OK. De l'aéroport. Récent. Tabarne. Hein? Hein? One shot deal, motherfuckers.
Bloopers. 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 Bloopers.
Radio X.
En pleine folie du magasinage des fêtes, faites une pause bien méritée. Laissez PFK s'occuper de vos repas. PFK, c'est des produits 100% canadiens préparés sur place et frais en tout temps. De quoi régaler toute la famille. Passez-nous voir chez PFK à Sainte-Marie, Montmagny, Donnacona, Vanier-Amel, Saint-Nicolas, Galerie-la-Capitale, Beauport voisin de la SAQ et au 840 Bouvier. Cet hiver, pensez PFK, le meilleur poulet frit au monde.
La vente du lendemain de Noël de Brick est de retour. Soyez l'un des 10 premiers clients en file qui recevra 50$ à utiliser sur n'importe quel achat. Plus, magasinez d'incroyables aubaines d'ouverture de 5 heures. Comme 70% de rabais sur les sofas en cuir véritable et les sofas inclinables lorsque vous achetez la causeuse ou le fauteuil assorti. Et toute la journée, achetez n'importe quel téléviseur ou électroménager et obtenez 50$ en crédit à utiliser sur les meubles, la décoration et les matelas. Plus, la livraison locale gratuite sur les achats de 499$ ou plus. Certaines exclusions s'appliquent. Détails en magasin. Chez Brick, plus d'économies pour vous.
Chez Sport Expert et Atmosphère, magasinez les soldes d'après Noël les 26 et 27 décembre. Pour deux jours seulement, profitez de 20 à 50% de rabais sur plus de 400 marques. Détails en magasin. Sport Expert d'ici.
Maison Adam.
Profitez des soldes d'après Noël sur des marques populaires chez Maison Adam. Économisez jusqu'à 45% sur des produits prisés des marques Bose, Sonos et Sennheiser, tels que des casques d'écoute, barres de son et haut-parleurs sans fil. Passez voir les experts de Maison Adam au 710 rue Bouvier ou visitez maisonadam.ca pour une expérience clé en main au meilleur prix garanti.
Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.
Capsule.
Radio X.
Conduire après avoir bu? Non. Marcher 5 km à 2 h du matin? Non. Ne pas avoir ton auto le lendemain? Non. Prendre TZ Capital National? Oh oui. Votre service de raccompagnement 365 jours par année? TZCapital.com. Cette année, on défonce l'année au galopin. Découvrez notre menu 5 services à seulement 89,99 $. Une ambiance unique sur place, parfaite pour célébrer. Appelez-nous rapidement pour réserver. Le galopin, une expérience à savourer pour défoncer la nouvelle année. Froid dehors? Parfait! Canuck, maintenant ouvert à Québec. Boxing Day du 26 décembre jusqu'au 3 janvier. Jusqu'à 50% de rabais sur items sélectionnés en magasin et en ligne. Avec Canuck, aimez l'hiver au 1066 rue Saint-Jean et canuck.com. Douce, c'est l'énergie mobile qui prend une seconde à consommer. Une entreprise 100% d'ici qui réinvente la façon de consommer de l'énergie. 100 mg de caféine à base de sirop d'érable disponible dans 500 points de vente au Québec et en ligne au 12nutrition.com.
Choix.
Choix.
98.
98.
1. Radio X. À Québec, Québec. C'est Radio X. Choix.
Radio X.
Faites-vous.
Faites-vous.
Votre propre opinion.
Notez que l'émission d'aujourd'hui est une rediffusion. Veuillez ne pas tenir compte des numéros de téléphone, dates et concours dans le prochain segment.
Le retour de Radio X.
C'est un conseil d'amis que je vous donne.
Avec D.H., Jordan et Mel Trudel.
Radio X.
Dans le retour de Radio X.
Stand by.
L'enquêteur du paranormal. Christian Page.
5h05, c'est officiel. Le week-end est lancé, mesdames et messieurs, avec Christian Page. Je t'ai annoncé, Christian. Et déjà, des gens se manifestent sur le texto. T'as pas dit un mot encore.
Oui, je sais. Mais et de la façon dont tu m'as présenté, tu m'as placé un peu dans l'embarras. Hein,
ah, ça se peut.
Tu dis, oh, on a un documentaire, ces amis. Qu'est-ce que vous pensez que Christian Page va en dire?
Oui.
Comme si obligatoirement, je devais me prononcer en faux sur tout ce qui touche la question des ovnis.
C'est parce que t'es notre expert. T'es notre.
Oui, c'est ça.
Mais là, écoute. Pour nous.
Hey, mais Christian, avant qu'on parle du documentaire en soi, là, c'est. Toi, je pense, parce que je t'ai entendu dans une entrevue montréalaise dans les derniers jours, et à tes débuts, tu avais une certaine croyance envers ça.
Oui, oui, absolument. En fait, moi, quand j'ai rejoint le milieu de l'étrange et du paranormal, on est dans les années 70, hein, c'est un peu la mode de la parapsychologie, les ovnis, tout ça. Là, c'est un peu l'âge d'or de tout le reste. Donc, j'adhère à ça, j'y crois. Je suis jeune adolescent, puis même jeune adulte, hein, j'adhère à ça. Mais peu à peu, avec le temps, ma formation de journaliste, on devient de plus en plus critique, on développe des outils d'investigation, et à un moment donné, on comprend qu'il y a notre volonté de croire en le biais de confirmation, mais il y a aussi la vérité. Et là, ben, à un moment donné, on commence à prendre nos distances, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on vérifie quelque chose, parce que croire, c'est pas difficile. Hein. Croire, peu importe ce que tu dis, croire, il y a une acceptation et c'est une paresse intellectuelle. Tu sais, si tu me dis que Elvis est toujours vivant, OK, j'y crois. Voilà, ça vient, oui. C'est fait. Tu oui. comprends? Ça demande aucun effort, cela. Mais si tu me dis qu'Elvis est toujours vivant, je dis, oh, j'en doute. Ça va demander de ma part une vérification. Je vais devoir commencer à dire, OK, ça nous renvoie en 1977. Es-tu vraiment mort? Est-ce qu'un rapport d'autopsie? Non, ça va demander un effort intellectuel. Donc, c'est pourquoi croire est toujours plus facile que de questionner. Or, à partir du moment où je me suis mis à questionner, ben là, je me suis rendu compte que les choses n'étaient jamais tout à fait comme on les présentait. Et pour moi, là où il y a eu la bascule, puisqu'on en parle, c'est vraiment au début des années 2000. Quand est arrivé l'avènement des télévisions spécialisées, Z-Télé, tout le reste, on m'a demandé de produire des documentaires pour la télévision. Et là, donc, je me suis retrouvé à produire Dossier mystère, enquête sur les ovnis, des forces extraordinaires ou des trucs comme ça. Et je me suis retrouvé à voyager partout à travers le monde, à réaliser des entrevues, de rencontrer des gens. Et là, je découvrais que chez moi, dans mon salon, en lisant des livres, hein, j'avais une connaissance livresque du sujet. Mais quand je me retrouvais sur place, puis je rencontrais les témoins, les policiers, les gens impliqués, c'était jamais comme on me l'avait raconté.
Ah.
Il y avait toujours des trucs qu'on m'avait cachés. Et là, peu à peu, j'ai découvert que 90 à 95 de ce que l'on racontait ou qu'on présentait dans la littérature était ou bien entièrement faux ou déformé en fonction des visées de l'auteur. La réalité, elle est autre. Et là, ben, peu à peu, je suis devenu pas... Parce que les gens disent « Ah, oh, t'es un sceptique ». Moi, honnêtement, Danny, là, je sais que dans ce milieu-là, les discours sont polarisés. On a des croyants d'un côté, on a les sceptiques de l'autre. Je vais pas être vulgaire, mais je te dirais que je m'en calisse. Oh. Moi, là, ça n'a aucun intérêt pour moi être d'un parti ou de l'autre. Je les laisse à leurs guerres intestines. J'y ai été, je me suis rendu malade, j'ai été impliqué dans ce milieu-là, je sais comment que ça fonctionne. Aujourd'hui, je suis au-dessus de la mêlée. La seule chose qui m'intéresse, c'est la vérité. Si un événement est vrai, je suis content. Si tu me dis cette histoire d'OVNI-là, c'est vrai, je l'enquête et je m'aperçois que tout ce que tu me racontes est tout à fait vrai, vérifié et vérifiable, je suis très content. Si je la vérifie et je découvre que tout est faux, je suis tout aussi content. Pour moi, là, ce qui est important, c'est que ce qui va ressortir de mon investigation, c'est la vérité. Maintenant, je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent croire. La croyance, elle est légitime. Les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent. Moi, je suis comme le type qui leur présente une boîte d'outils. Je lui donne un marteau, je lui donne un tournevis. S'ils ne veulent pas l'utiliser, libre à eux, ça les concerne eux. Moi, j'ai fait mon travail. J'ai donné une information qui m'apparaît être qualitative. S'ils l'utilisent et ça fait leur affaire, tant mieux. Ça fait pas leur affaire, tant mieux aussi. Ils sont libres de leur choix.
Mais c'est un autre qui dit, bah, faut vraiment être naïf, faut penser qu'on est seul dans l'univers. C'est pas ça que tu penses. C'est juste qu'on t'a pas démontré à ce jour un phénomène concret que tu peux expliquer. Là.
Danny, ouais. C'est un mauvais débat. Mauvais débat. La question ici, là, c'est le syndrome du kangourou. Vidons-la, là, une fois pour toutes.
Ben oui, vas-y.
Enregistrez-la, puis on va la ressortir. Ouais. Le syndrome du kangourou. Tout le monde est d'accord qu'il y a des kangourous en Australie. Mais si tu me dis que t'en as vu un gambader sur le pont Pierre-Laporte un matin, je vais te dire, Danny, j'ai besoin d'une preuve plus conséquente. C'est ça le problème. La question n'est pas de savoir s'il y a de la vie ailleurs dans l'univers. Tous les astrophysiciens sont d'accord. Il y a probablement même de la vie sur d'autres, de la vie microbiologique, microbiologiques, sur des satellites dans notre propre système solaire. On pense à des bonnes candidates. On pense à la Lune Encelade, qui est une lune de Saturne, tout ça. Mais on parle toujours ici, évidemment, d'une forme des microbiologiques. Et il y a peut-être ailleurs dans l'univers des grandes civilisations technologiquement avancées. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est sommes-nous visités par des extraterrestres? Je veux pas savoir s'il y a des kangourous en Australie. Je veux savoir s'il y a des kangourous qui gambadent sur le pont Pierre-Laporte. C'est ça la question.
Très bien.
Il faut vider cette question-là. Toutes les fois où on parle de la question des ovnis, c'est « Oh, mais est-ce que tu es en train de dire que tu ne crois pas être basé dans l'univers? » C'est pas ça le débat. C'est « Sommes-nous visités? » Et 80 ans de recherche dans le domaine des ovnis n'a jamais apporté la moindre preuve à l'appui de ces visites extraterrestres.
Et puis pourtant, c'est des millions de personnes qui en ont vu, là, hein, tu sais, là.
Il y a des millions de gens qui ont rapporté avoir vu des ovnis, et ça ne remet pas en question les ovnis. Les gens voient dans le ciel des choses qu'on n'explique pas, je suis bien d'accord. La question, c'est pas de savoir si les gens voient des ovnis. La question est de savoir, est-ce que les ovnis sont des véhicules d'origine extraterrestre en visite? C'est ça la question. Et jusqu'à maintenant, là, cette hypothèse-là n'a jamais été appuyée par la moindre preuve matérielle. Aucune. Zéro. En 80 ans.
Il y a du monde qui dit qu'ils ont été kidnappés.
Il y en a un qui est un peu... C'est pas une preuve, Danny. C'est pas une preuve. Moi, je peux te dire que j'ai vu la semaine passée le Père Noël. C'est pas une preuve. Le témoignage n'est pas une preuve.
Mais il y a des gens qui disent qu'ils l'ont vécu, qu'ils l'ont ressenti, ils ont été kidnappés, puis sont partis.
Ça ne change rien du tout sur le plan de la science n'est pas là pour écouter des témoignages. La science n'est pas là pour se faire des amis avec ceux qui disent avoir été enlevés par des extraterrestres. La science a besoin d'avoir des éléments qualitatifs, importants, sur lesquels on peut appuyer un raisonnement. Un témoignage n'est pas une preuve. Les amateurs d'ovnis sont toujours à dire « nous enquêtons sur les ovnis ». C'est pas vrai, ça. Un oncologue enquête sur le cancer. Un entomologiste enquête sur des insectes. Un enquêteur sur les ovnis, en fait, il enquête sur des témoignages d'ovnis. Parce que l'ovni, on l'a pas. Je voudrais bien, là, mais on l'a pas. Ce que l'on a, c'est des spécialistes qui enquêtent sur des témoignages de gens qui racontent des histoires.
Ah ben,
là, je suis quasiment fâché.
Non, non, mais c'est ça. Les gens disent, c'est beau, Dan. T'as mis le feu à l'antenne.
Ah oui, c'est...
Mais Réal, il dit qu'il les a parlé.
Bien sûr. Moi, j'ai assisté à une réunion oui. Chez Réal.
Garde-nous ça pour jeudi prochain, Réal.
Tout le monde tout nu, on avait du fun.
Ah oui, bon, ben, c'est ça.
On a l'air le fun.
Garde-nous ça pour jeudi prochain, Réal.
Okay? Oui, ça me fait plaisir.
C'est
ça,
parce que là, c'est un documentaire qui est sur Prime. Ça s'appelle L'âge de la transparence où des scientifiques, des politiciens, des ex-soldats. Toi, tu l'as vu, raconte-nous ça. Là. Là, apparemment, qu'à suite à cette écoute-là, Christian, là, t'es supposé être convaincu que ça existe.
Ouais. Mais en fait, c'est un peu ça. Moi, écoute, Danny, moi, je suis très triste à voir que j'ai donné ma vie à ce sujet-là. Puis de voir que finalement, je continue d'être un peu l'objet de toutes sortes de critiques, puis tout ça. Puis là, des fois, je me dis, j'ai-tu bien fait la chose? Parce que dans la plupart des cas, et c'est le cas présent, l'une des grandes absentes, c'est la vérité. Et dans le cas présent, c'est encore la même chose. Donc, on a ce documentaire, la publicité nous dit « Ah, il y a un nombre impressionnant d'officiels. » Par les officiels, on entend des scientifiques, des militaires, des politiciens, des anciens agents du renseignement. Donc, tous ces gens-là témoignent à l'écran. Mais quand on regarde ça, là, détaché, là, un bon journaliste d'enquête, on s'aperçoit que c'est un documentaire qui a été fait par et pour des gens qui croient que le gouvernement américain sait tout sur les ovnis et nous cache tout. Quand on nous présente les politiciens, ben c'est en fait toujours les mêmes 10 élus au Congrès américain qui sont là depuis des années, qui sont bien connus pour leur discours de « je crois aux ovnis et je crois que ce sont des extraterrestres ». Faut-il se rappeler que 10 élus au Congrès américain sur 541, c'est quand même pas la manne. T'sais, ces gens-là sont bien connus depuis longtemps pour tenir ce discours-là. Les politiciens ont le droit à leur croyance. Je suis certain que je pourrais faire un documentaire, moi, en trouvant 10 politiciens qui croient que la prise de Tylenol entraîne l'autisme. C'est pas le fait de répéter ad nauseam quelque chose comme vrai que ça le devient pour autant. Les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent. Il y a sûrement des politiciens qui croient que le Tylenol donne l'autisme. Il y a des politiciens qui croient en Dieu, des politiciens qui croient en Allah, des politiciens qui croient, je sais pas, moi, les croyances sont légitimes. Tu me sors 10 politiciens qui sont bien connus, qui croient aux extraterrestres. Ben oui, c'est légitime, ils ont le droit d'y croire, tu sais, bon, parfait.
On croit, mais ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont pas de preuves.
Il n'y a pas de preuves. On a dit, oh non, on a des scientifiques. Ben, on nous présente 4 scientifiques, et parmi les 4 scientifiques qu'on nous présente encore là, ce sont des scientifiques qui, depuis des années, sont dans ce milieu-là, qui répètent qu'ils croient aux ovnis, qu'ils croient aux extraterrestres. L'un des scientifiques est un membre de l'Église de Scientologie, puis l'autre, il chasse des loups-garous dans un ranch dans l'Utah. Hey, c'est des grands scientifiques. On s'entend, là, c'est des vrais scientifiques avec un cursus universitaire et tout le reste. Ce sont des vrais scientifiques. Mais disons que c'est pas nécessairement les moins controversés. Là, tu sais, là, bon. Ouais. OK. Là, on pense aux agents du renseignement. Ces gens-là, on ne sait pas toujours quelle est leur motivation, mais il y en a là-dedans, notamment celui qui trône au milieu de tout ça, qui prend un peu qui est la tête d'affiche de ce documentaire-là. Lui, il dit qu'il a été attaché à un programme d'études sur les ovnis qui était top secret. Et alors que quand on pose la question au département de la Défense, le département de la Défense nous dit que c'était pas vrai du tout. C'est un petit projet de sous-traitance avec un milliardaire dans lequel il est impliqué. Mais lui, en tant que tel, n'a jamais occupé un poste au sein du département de la Défense sur les ovnis. Et quand le gouvernement, quand le département de la Défense a publié un communiqué dans ce sens-là, bien évidemment, il a arraché sa chemise puis il a crié au complot. C'est toujours la même chose. Et là, tout d'un coup, on nous présente des témoignages de pilotes en essayant de nous faire croire que les pilotes sont des meilleurs témoins qu'un citoyen lambda. Bien, c'est faux. La vérité, c'est pas ça. La vérité, et on a 30 ans de recherche sur des témoignages qui montrent très clairement, puis pas essentiellement des témoignages sur les ovnis, des témoignages dans le domaine policier ou autre, là, on sait que le témoignage devant l'inconnu, si la personne ne sait pas ce qu'il observe, toutes ses interprétations risquent d'être erronées. Ça n'a pas d'importance qu'il soit un pilote ou un chauffeur de taxi. Devant l'inconnu, on est tous égaux. Si on ne sait pas ce que l'on regarde, ben, nos interprétations sur la vitesse, le déplacement, l'éloignement risquent d'être complètement
faussées. Si le pilote sur son radar, il a vu quelque chose d'anormal, le gars, ça fait majeur pas 10 ans, 15 ans qu'il pilote, il n'a jamais vu cette patente-là.
Mais ça, ben voilà, dis, ben regardons son radar. Oui. Et puisque tu le dis, hein, parlons-en, puisque ça, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, ben oui. Parlons-en, c'est les preuves matérielles. On a ce documentaire-là. Moi, je me suis assis, j'ai sorti mon paquet de popcorn, j'ai dit, vas-y, convainquez-moi. Et là, quand arrivent les preuves, ben, il y en a, tu sais, il y a une affirmation qui dit, à une preuve extraordinaire, à une affirmation extraordinaire, preuve extraordinaire. Moi, personnellement, je me serais contenté d'une preuve ben ordinaire. Mais on l'a même pas. On a 2 heures de blabla de gens qui nous racontent des affaires incroyables. On multiplie les affirmations extraordinaires. Oh oui, on a récupéré des ovnis, on a récupéré des cadavres, on a des vortex spatio-temporels. Ben oui, tant qu'à y être, on se téléporte sur Mars. Vas-y, mets un petit peu. Puis il y a une pizza avec ça au milieu de tout. Rien du tout. Et là, le documentaire se termine, tu dis, ils sont où nos preuves? Zéro. On nous montre, crois-le ou non, là, on nous montre 3 films d'OVNI qui auraient été tournés par des militaires à partir de leur fameux radar d'avion. Là.
Mais c'est flou.
Ben, sur
c'est
ces flou. 3 films-là, c'est flou. Et non seulement c'est flou, sur les 3 films, 2 d'entre eux ont depuis été identifiés par le département de la Défense comme étant des phénomènes naturels ou artificiels bien banals, dont l'un n'est rien de plus qu'un ballon d'enfant. Tu sais, le ballon que t'achètes à 4$ là, au magasin, à 1$, là, gonflé à l'hélium en papier d'aluminium, ben un des fameux films en question n'est rien de plus qu'un de ces ballons-là qui a été lâché. Ces ballons-là, les gens l'ignorent, là, mais ça peut monter jusqu'à 30 000 pieds d'altitude. Et quelque part, un pilote qui volait avec son avion là, au-dessus de la mer, ben a croisé l'un de ces ballons-là, qui avait peut-être été échappé d'une plage voisine 3 ou 4 heures plus tôt. Il l'a croisé avec son avion, il a été surpris, il l'a filmé. Et là, c'est devenu un OVNI. On l'a appelé d'ailleurs l'OVNI Go Fast. Mais le département de la Défense, qui ont mis en place en 2022 un organisme étatique justement pour enquêter sur ces observations, un organisme qui s'appelle ARO, A-A-R-O, un acronyme qui veut dire Bureau d'identification des anomalies dans tous les domaines. Ben, ce bureau en question ont analysé le fameux film Go Fast et ils arrivent à la conclusion que l'objet fait à peu près 30 cm de diamètre. Il se déplace à la vitesse de 14 km, donc à la vitesse des vents, et ce n'est probablement, voire très certainement, rien de plus qu'un ballon.
OK, mais ça a l'air qu'il y a des artefacts là, inexplicables sur Terre.
Ben, montrez-les. Moi, je ne demande pas mieux de les voir.
Toi, t'en as jamais vu, là.
Jamais vu, moi. Et les artefacts qu'on nous montre, il faut bien s'assurer que ces artefacts-là n'ont pas une autre explication, parce que moi, je peux bien sortir un marteau puis dire que ce marteau-là était trouvé dans le désert de Gobi puis qu'il est vieux de 75 000 ans.
Oui.
Mais en réalité, si tu fouilles en dessous puis tu vois que c'est marqué Renault Dépôt, ça va pas poser bien. Des questions. Ça va pas bien. Donc, c'est un peu ça, là. Est-ce qu'on nous dit la vérité? Moi, je suis prêt à accepter tout, là. Je suis pas fermé. Mais ce que je veux pas, c'est que je veux qu'on arrête de me bourrer, là. Je suis tanné qu'on m'entube et qu'on me raconte des histoires. Et moi, je peux t'assurer, ça fait 50 ans que je suis là-dedans. Et ça fait 30 ans comme journaliste d'investigation. Et jusqu'à maintenant, toutes les enquêtes que j'ai menées arrivent toujours malheureusement à la conclusion qu'on m'a manipulé quelque part. J'ai l'impression... Et les gens me disent, mais t'es donc bien méchant avec les ufologues. Ces gens-là ont volé 20 ans de ma vie. Ces gens-là, je les ai crus. Ils m'ont raconté des bobards. Ils m'ont entubé. J'y ai cru. Jusqu'à temps que je mène mes propres enquêtes et je découvre que ces gens-là étaient des menteurs. Ces gens-là m'ont manipulé. Ils continuent de manipuler
menteurs
les
compulsifs?
Gens pour leur... Oui,
compulsifs,
des menteurs compulsifs. Et ils vendent leur salade. Ce qu'ils veulent, c'est que tu sois scotché à ton écran de télé, que t'achètes leur dernier livre et leur dernière vidéo, que tu crois le tabarnak de salade. C'est ça qu'ils sont. C'est ça qu'ils font. Excuse-moi, là, je t'ai parti un peu.
Non, il y en a qui me disent, Danny, c'est pas Léopold Lauzon, c'est Christian, là.
Oui, c'est ça. Donc, mais malheureusement, c'est ça. Tu sais, c'est des trucs qui me choquent. Et quand j'ai regardé ce documentaire-là, ben oui. Malheureusement, j'ai eu la même réaction. J'ai dit, voilà encore, les gens vont regarder ce documentaire-là. C'est un documentaire qui est bien fait, là, entendons-nous, c'est bien fait. Si tu connais pas bien le sujet, ben, tu te laisses entraîner là-dedans. Tu te dis, ces gens-là sont crédibles, ces gens-là disent des trucs intéressants. Ouais. Pourquoi ils mentiraient? Ouais.
Beaucoup de verbiage, mais pas de.
Mais on est là, écoutons, après 80 ans, là, on a des soucoupes volantes depuis 80 ans d'un laboratoire. C'est des dizaines, sinon des milliers de gens avec les décennies qui ont été impliqués dans ces projets-là pour les garder secrets. C'est difficile d'avoir 10 personnes qui gardent un secret. Et là, tu me dis qu'on a des dizaines de milliers de personnes qui ont été impliquées dans des crashs d'ovnis, des récupérations de cadavres. Aucun d'entre eux n'a réussi, quelque part, à nous dérober, ne serait-ce qu'un petit bout de métal pour nous le montrer, un trombone, un botch de cigarette. Aucune de ces personnes-là ne sort de l'ombre. Il faut vivre dans un monde avec des licornes. Dans le mien, là, je ne sais pas dans le tien, Danny, ouais. Mais dans le mien, là, les gens aiment l'argent. Et moi, là, je peux te dire que si quelqu'un sait qu'il est atteint, par exemple, d'un cancer en phase terminale et qu'il y a une famille derrière lui, la première chose qu'il va faire, il va aller vendre son secret. Parce que des secrets, ça se monnaie. Donc, il va se présenter au Washington Post, il va dire, moi, j'ai un petit morceau de soucoupe volante, tu me donnes 1 million, je te dis qui a travaillé là, pourquoi, etc. Je te donne mes petits morceaux, tu me donnes mon million, anonymement, m'assurer la survie de ma femme, la survie de mes enfants qui vont aller à l'université, et moi, je peux partir en paix. Mais ça, c'est jamais fait.
Alors, qu'est-ce que je vais juste aller, garde quelques affaires. Il y en a qui te demandent si tu as une preuve béton de ce que tu affirmes.
J'ai pas besoin.
Non, non.
Mais on comprend bien, là. C'est l'inversé. Moi, je n'ai pas à prouver que quelque chose n'existe pas. Voilà. Je serais même incapable de te prouver que le Père Noël n'existe pas. Parce que même si je ferais le tour du pôle Nord puis je te dis, Danny, je l'ai pas trouvé, le Père Noël, tu pourras toujours dire, oui, mais tu n'as pas regardé au bon endroit. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans la science. Ouais. La science, c'est celui qui fait la affirmation qui doit prouver ce qu'il dit. Donc, si toi, tu me dis qu'il y a des ovnis, prouve-le. Moi, je n'ai pas à te prouver qu'il n'y a pas d'ovnis. C'est à toi de me prouver qu'il y a des ovnis et c'est à me prouver que ce sont des engins extraterrestres. On veut bien s'habiller avec le manteau de la science, mais encore faut-il en appliquer les règles. Et la règle, c'est celui qui fait l'affirmation qui doit prouver son point.
Je te lis quand même. Je l'adore, oui. Ce Christian. Ce ne sont pas tous des menteurs. Ils blasphèment trop. J'adore Christian, bravo. Christian, t'es le meilleur. Les ovnis au... Que pense Christian de la Bouga, c'est quoi Bouga?
La Bougasphère.
Bougasphère, après ça, bon, écoute...
Tu fais réagir. Il y a beaucoup que j'adore Christian aussi.
Ben oui, mais la majorité t'adore, Christian.
Mais tant mieux. Mais tant mieux.
Christian, t'es pas là pour te faire adorer. Tu dis ce que tu penses c'est ça.
Moi, je suis là pour donner la vérité telle que moi je l'ai enquêtée, telle que je l'ai vue. Hein, en enquêtant partout à travers le monde. Maintenant, si les gens me disent, et les gens sont libres d'y croire. Hein, je dis, l'OVNI de la place Bonaventure, c'est des piliers lumineux. Si quelqu'un me dit, moi, je ne veux pas y croire, je préfère croire que c'est un engin extraterrestre, ça le concerne lui.
Ben oui.
Ça ne me concerne plus moi. Là. Moi, je vais me coucher ce soir, ça ne changera rien à mon affaire. C'est sa croyance à lui. Mais je lui ai donné un outil. C'est à lui de le prendre, à le mettre dans sa boîte à outils. S'il ne veut pas le mettre dans la boîte à outils puis le jette à la poubelle, bien là, c'est son problème à lui.
Bon, les gens veulent savoir, ton cœur se porte bien, Christian, là, en ce sens que...
Oui, mon cœur
se porte bien. Parce qu'on t'a fait faire un petit peu.
Oui, non. mais c'est vrai que c'est un sujet qui me fait toujours réagir, oui. Parce que j'ai toujours l'impression que c'est moi les gens me voient toujours comme si j'avais le mauvais rôle. Mais moi, je comprends pas. Moi, j'ai de la misère à comprendre pourquoi les gens voient que j'ai le mauvais rôle. Moi, la seule chose que je veux, c'est leur donner... la vérité telle que je l'ai enquêtée. Et s'ils veulent pas l'apprendre, c'est correct, mais il faut pas me donner un mauvais rôle pour ça. Voici, je vous donne ça. Si, bon, en fait, ce que t'en veux. Tu sais,
été vérifié,
voilà. Pétage de coche malade, c'est parfait. Christian Ford, the president! Christian Page, yes! Au final, il croit plus aux fantômes. Bon, écoute, il s'en sort.
En fait, c'est pas que je crois plus aux fantômes. C'est que dans le cas, par exemple, des fantômes, si on prend, et notamment les cas de poltergeist. Dans le cas des poltergeist...
Dans 30 secondes, Christian.
Dans les cas de poltergeist, par rapport aux ovnis, ovnis. Dans le cas des ovnis, par exemple, on n'a jamais l'objet. Et quand on nous dit qu'on l'a, on a des morceaux d'ovnis, on a des morceaux de cadavres d'extraterrestres, ou peu importe, c'est toujours dans des laboratoires inaccessibles, cachés par le gouvernement. Dans le cas des poltergeists, par exemple, ce sont des manifestations qui se produisent de manière spontanée, que l'on associe à tort ou à raison à des revenants. Mais dans certains cas, ces phénomènes-là se sont produits dans des conditions rigoureuses et on a pu les documenter. Donc, on a une documentation soutenue par des gens qui étaient sur place et on a accès à ça. Donc, si toi, tu dis, j'y crois pas, par exemple, dans le cas du poltergeist de la machine, que le mur cognait, bon, on a les enregistrements, on a les films, on peut se retourner, là. On a les témoignages et on a ces éléments-là alors qu'ils se sont produits. Alors que dans le cas des ovnis, par exemple, c'est on n'a jamais la photo ou jamais le film et quand on en a une, c'est toujours truqué ou flou. Et c'est là qu'à un moment donné, moi, je décroche. Il n'y a pas de documentation qui arrive à nous dire rigoureusement, voici ce qui s'est produit.
Entre une chose que je peux prouver, c'est que tu as fait exploser le texto.
Bon, ça, ben, tant mieux.
Je peux le prouver. Hey, on sera là demain à 18h avec toi. Moi, je t'adore. Merci beaucoup.
Désolé pour les gros mots. Là,
c'est un privilège de t'avoir dans notre show comme collaborateur, Christian.
Ça me fait plaisir.
Ouais, merci beaucoup. Bonne soirée.
Merci,
fais attention à ton cœur, Christian.
Oui, je fais attention.
Salut, bye.
Bon week-end.
Bye. Bon week-end.
Le retour de Radio X.
Radio X.
Morée. Live.
Live. Avec Dominique Morin, Dan Gravel et Dom Dumas, lundi au vendredi. 6 heures.
Radio X.
Présenté par Multiconfort FP. Les rabais fou se poursuivent. Des rabais exceptionnels sur nos thermopompes se poursuivent en décembre. Informez-vous, Multiconfort FP, le confort à prix fou tout le mois de décembre.
Chez Sport Expert et Atmosphère, magasinez les soldes d'après Noël les 26 et 27 décembre. Pour deux jours seulement, profitez de 20 à 50 de rabais sur plus de 400 marques. Détail en magasin. Sport Expert d'ici.
Soyez prêts à affronter l'hiver avec Mazda Châtel. Grand inventaire de Mazda CX-30 à traction intégrale. Choisissez le modèle et la couleur et en plus, obtenez un rabais fidélité inégalé de 1,5% sur le taux. Mazda Châtel, sortie Pierre Bertrand, secteur du Marais.
Technopompe, votre référence en chauffage, climatisation et thermopompe à Québec, vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci à nos clients et partenaires pour leur confiance depuis 1987. Technopompe, dépositaire exclusif de la marque Train. Techno-pompe avec un S.com.
Hey! Salut! C'est encore moi, ton sommeil. Bon, là, c'est le temps des fêtes. L'équipe festive de Dormez-vous m'a demandé de vous rappeler que c'est aussi le temps de dormir. Hein? Oui, il y a des portions de dinde à digérer, il y a des pyjamas drôles à essayer, il y a des siestes à faire dans la pile de manteaux sur le lit. Le cadeau à donner, c'est moi, le sommeil. Attends de me voir emballé.
Vous aussi serez emballé quand vous allez profiter de 30% de rabais sur presque tout pendant le solde des fêtes. En ce moment, seulement chez Dormez-vous. Les conditions s'appliquent.
IGA des sources se présente...
Le temps des fêtes. Recevez en grand cette année avec les produits du pied de cochon. Au menu, le gâteau aux fruits, la fameuse tourtière, le ragoût de pâte, la toute nouvelle bûche de Noël et plusieurs autres produits.
IGA des sources, des découvertes à chaque rayon.
Radio X recrute pour sa force de vente locale. T'es un développeur dans l'âme, un vrai fonceur. Que tu sois junior, intermédiaire ou même senior, on veut te rencontrer. Viens évoluer dans un milieu ultra stimulant pour la station toujours numéro 1 dans la grande région de Québec. Peu importe ton secteur d'emploi actuel, assurance, automobile, meubles, services, on veut te rencontrer. Fais-nous parvenir ton CV à cv@commercialradiox.com. cv@commercialradiox.com.
Notez que l'émission d'aujourd'hui est une rediffusion. Veuillez ne pas tenir compte des numéros de téléphone, dates et concours dans le prochain segment.
Le Space Cast.
Avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.
Le 88-670-9098, le Spacecast qui est avec vous jusqu'à 22h, jusqu'à l'arrivée du chum Max Lacasse pour le Last Call. Aujourd'hui, Louis, on fait quelque chose que je veux faire. En fait, non, c'est pas vrai. Que je me dis que ça pourrait être le fun de faire depuis que j'ai le Spacecast. On va parler avec quelqu'un que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup. Puis je sais pas si t'as ça, toi, Louis, des affaires que quand tu passes un mauvais coton dans ta vie, ou tu sais que t'as un moment plus down, sur lequel tu peux te rabattre. Je sais pas, t'es-tu un tripeux de podcast ou... Tu sais, je te donne un exemple pour que tu comprennes un peu ce dont je parle. Moi, pendant la pandémie, surtout au début, là, quand j'étais en train de penser que notre monde était vraiment en train de s'effondrer puis qu'on allait devoir tuer pour manger, je me suis retourné vers ce numéro des Denis Drolet où est-ce que Sébastien Garoche, son père, entre guillemets, qui est joué par Vincent, ça a tabalangé, puis ça, je l'ai écouté 2000 fois parce que ça me faisait du bien. Ben moi, dans les dernières années, j'ai découvert quelque chose dans un podcast qui fait que pour le reste de ma vie, quand je vais passer un mauvais coton, je vais toujours pouvoir aller réécouter le procès de Martin Lauzon. Tout le temps. Et d'ailleurs, c'est rare que je fais ça, d'écrire à des humoristes comme « Hey, ce moment-là m'a fait du bien » ou même des personnalités publiques parce que tu me connais, là, je suis un genre d'ermite, fait que c'est rare que je communique.
Un petit peu gêné, c'est bon.
Ah, c'est ça, je suis un grand timide dans la vie, fait que c'est rare que je défonce le mur d'écrire à la personne. Puis dans ce cas-ci, j'avais écrit à Joe Cormier, puis dans demi-heure, Joe Cormier m'avait répondu. Et ça m'avait complètement renversé. Mais tu me connais, je suis un grand timide, fait que ça faisait des années que je repoussais l'idée d'inviter Joe Cormier au Spacecast. Puis c'est toi qui m'as fait la clé de bras pour le faire.
Ben là, on n'avait pas ben le choix de l'inviter à moment donné. Moi aussi, j'étais un grand fan de Joe Cormier, plus pour son côté humour que côté podcast. Je suis pas un grand écouteur de podcast.
Tu vois, moi, c'est l'inverse. Je connais Joe Cormier beaucoup plus à cause de son rôle de podcasteur que d'humoriste, tristement, parce que je suis un ermite, fait que je sors pas beaucoup de chez nous, tu sais, pour aller voir des shows, mais je suis... Écoute, hier, ils ont sorti... C'est-tu hier? Ouais, je pense que c'est hier, le 175e épisode de Tout le monde gagne. On parle abondamment d'un bec sucé. J'ai encore très, très mal compris le concept de comment bien exécuter un bec sucé. mais moi, je suis un fier Patreon depuis des années. Fait que je suis très, très, très content qu'on accueille dans le Spacecast Jonathan Moreau-Cormier. Salut, Joe!
Salut les gars, tabarouette. Hey, sache que tu parles à un ermite quand même, aussi ironique que ça puisse paraître, là. Fait que ermite reconnaît ermite.
Hey, mais pour vrai, là, j'ai de la misère à te saisir parce qu'autant que t'es over the top, extravagant, tu sais, quand t'as fait LOL, le show de Patrick Huard, t'es arrivé habillé comme un ermite s'habille pas, man. Un ermite, c'est un peu plus timide que ça. Fait que comment tu fais pour... Est-ce que t'es timide ou bien c'est une façon comme de t'auto-botter le cul de jouer over the top?
Je pense que c'était mon côté joueur l'emporte sur la timidité. Je sais pas si c'est clair là, dans le sens que je suis pas non plus super timide. Je me considère un peu plus introverti et ermite, là, c'est-à-dire que moi j'ai pas le fear of missing out, là j'ai le JOMO, là, le joy of missing out, là, tu sais.
Ouais, ouais.
fait que c'est ça. Je pense que c'est ça, puis ça me fait du bien. Ça me fait du bien de te parler en monde, hein, puis de te rencontrer, entre guillemets. J'aime toujours ça, parler aux membres Patreon, puis Chris, procès de Martin Lauzon, c'était hot, là.
Ah, man, mais parlons aux auditeurs, parce que peut-être que nos auditeurs sont pas au courant de c'est quoi. Comment est née cette idée-là? Explique-nous aussi, parce que moi, je saurais pas le mettre en mots, comment expliquer Martin Lauzon tout court comme individu, là. T'as tellement de collaborateurs qui, moi, pour vrai, me font du bien. C'est mon moment feel-good de la semaine, ça.
Wow!
Quand t'as soit Martin Lauzon, ou encore plus, là, je fais une hiérarchie, mais moi, Maxime Gervais, la relation que t'as avec Max Gervais, ça me fascine. Puis Max Gervais, là, je vais même te dévoiler de quoi. C'est, lui, il faisait pendant un bout de temps des vidéos top 10 sur son TikTok. Puis j'écoutais ça avec mes filles. Même des fois, ma blonde était comme, hey, là, il sac, là, puis arrête, là. Mais moi, c'est mon human feel good, Maxime Gervais. J'aime ça l'entendre. Ça me fait du bien. Même affaire pour toi. Mais je reviens à ma question initiale. Parle-nous un peu du procès de Martin Lauzon. C'est qui Martin Lauzon? Puis comment est née cette idée folle-là?
Bon, ben Martin Lauzon, faut savoir, c'est un athlète né. Un genre de gars de 6 pieds 2, bien musclé, mais ça, je te décris le physique pour comprendre l'intérieur. C'est un genre d'enfant comme moi, qui aime jouer, qui est aussi un très bon humoriste, puis je dirais très simple. Mais il sait que il peut jouer avec les codes d'avoir l'air niaiseux, puis lui, il en a rien à foutre de son physique, tu comprends-tu?
Ouais, ouais.
Fait que là, nous autres, ça nous fait rire parce que c'est celui qui est le plus en shape puis qui mange des hosties de gamelles de chien comme déjeuner, dîner, souper.
Ouais, puis qui colle ses lits.
Qui colle ses deux lits pour dormir. Ça y prend deux lits king. Fait que là, à un moment donné, on a dit c'est illégal tes repas. Fait que là, on s'ostinait pendant une période de temps sur peut-être une dizaine d'épisodes. Puis moi, parallèlement à ça, j'ai loué un palais de justice, une salle de palais de justice.
C'est là, vrai ça, parce que moi, je l'ai juste écouté en audio. C'était vraiment dans un palais de justice?
Ouais, puis lui, on l'a pranké, là. Lui, on lui a dit qu'il s'en venait tourner un podcast et tout. Il savait pas qu'il s'en venait à son procès. Fait que là, on l'a fait attendre dans une petite pièce. Quand on l'a fait rentrer, c'est fait entrer le témoin, fait entrer le coupable à la barre. Pas le coupable, là, mais en tout cas...
L'accusé, ouais.
L'accusé à la barre, puis il a rentré, puis il a catché que, OK, il y avait un procès.
Ah, puis encore une fois, sur cet épisode-là, Pascal a été incroyable. C'est une de mes collaboratrices préférées aussi. Puis honnêtement, je te le dis vraiment là, comme fan du podcast, là, peut-être que tu vas me dire, ah, t'es complètement fou, mais à chaque fois que et Martin Lauzon et Pascal Marino sont sur le même podcast, je trouve que les deux, ils ont une énergie sexuelle incroyable. Si tu me dis que les deux se datent dans la vraie vie, je te crois à 1000%.
Non, ils se datent pas en plus. Sont chacun en couple respectif depuis des années, là.
Okay.
Mais ça, c'est l'effet Pascal, ça. Elle aime ça en parler, elle.
Ouais, ouais. Puis les deux, on dirait qu'il y a une espèce de chimie naturelle, là, comme t'as, entre autres, avec Max Gervais. Max Gervais, c'est-tu un gars que tu connais depuis longtemps?
C'est aussi cochon, notre énergie, ou?
Ben, c'est cochon, mais comme fais-moi mal, puis éteins-moi une clope dans le dos, là. Tu sais, ce genre de cochon-là.
Cochon jackass.
Ouais, exact.
Ben. Ça fait quelques années qu'on se connaît, mais qu'on marche main dans la main, là, c'est plus genre depuis 3 ans. Là, depuis qu'on a parti le podcast, là. Mais en fait, c'est notre premier projet où on travaille conjointement. Tu sais, c'est Max et j'allais prendre des cafés avec, parce que lui, à savoir qu'il était dans un duo, un trio, un groupe d'humour, en fait, qui était les Picbois.
Ouais.
Donc, sa vie était comblée à ce moment-là. Puis là, ben, quand il a pris des décisions et tout...